J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Pic. Il fait partie sûrement des sept samouraïs, si on peut dire ça. Avec, il est très connu du public dans son domaine. Il y a tout comme Luminet, je vais peut-être en trouver sept, hein, Luminet, Étienne Klein, La Chaiseraie, Hubert Reeves, Pascal Pic, Amezen maintenant, ça fait pas si longtemps, hein,
ouais, c'est vrai.
Mais quand même. Copains, voilà, donc j'en ai sept déjà.
Ah, c'est plus la même génération, là.
Plus la même génération, bon, écoutez, Hubert, ils n'ont plus,
mais
ils sont là, quand même. Hein. Voilà. Donc, Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France, qui a donc... j'ai été surpris d'apprendre que tes premiers travaux ont concerné la physique théorique. Voilà, comme quoi, on peut mal tourner à un moment ou à un autre. Donc, la physique théorique, ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite... Donc, le sujet de ces travaux principaux ont concerné l'anthropologie, bien sûr, l'introduction de l'anthropologie dans le champ de la théorie d'évolution. Je le dis très mal parce que ce n'est pas mon domaine, mais moi, je suis fasciné par non pas par les recherches qui ont été faites parce que ce n'est pas mon domaine, mais j'avoue avoir pris un plaisir immense à lire, entre autres choses, Lucie et l'obscurantisme. Et il y a plusieurs sections dans ce livre qui m'ont tellement interpellé que c'est ce qui m'a donné l'idée d'organiser cette conférence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous les feux croisés d'un mouvement un petit peu désagréable, très désagréable même, qui nous vient d'outre-Atlantique et qui parvient jusqu'à nous. C'est l'intelligence design, le créationnisme, enfin, toutes ces idées qui essayent de pourfendre la France, la France, la science. Et voilà, et donc il faut être bien armé, il faut y réfléchir, et c'est vrai que ça touche à la fois, ça tape à la fois du côté de la cosmologie, à travers le principe anthropique par exemple, mais aussi et surtout, comme tu l'expliqueras, du côté de la biologie et donc de la théorie de l'évolution. Alors, donc moi je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, hein, Lucie et l'obscurantisme, publié déjà en 2007, c'est pas mais qui est tout à fait pertinent encore et qui a toute sa place par Odile Jacob. Donc, il y a d'autres livres. La plupart de ces livres que je vais citer sont publiés chez Odile Jacob. Je cite « Au commencement était l'homme ».« L'homme est-il un grand singe politique ?» Toujours chez Odile Jacob. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un livre en préparation, au pluriel, « Les hommes de Rio ». Hein, ça nous fait penser à... autre chose, je pense que si c'est le titre, en tout cas, évidemment, il est très évocateur. Mais pourquoi Rio ? Parce que le sous-titre l'indique, requiem pour la biodiversité, puisque vous savez que la biodiversité est un... Je comprends très bien que Pascal Pic et tous ceux qui s'intéressent à l'évolution donc, des espèces se posent la question et nous alertent sur le problème de la préservation de la biodiversité. Voilà, je vais vous donner la parole donc, pour une heure. Merci.
Merci Daniel pour cette invitation et cette présentation. Et il n'y aura pas de PowerPoint, pas parce que je suis un préhistorique. Mais vous êtes tellement habitué à voir de belles images, si je vous mets des têtes de singes, ça ne va pas durer 10 minutes. Alors. Pourtant, ils sont beaux qu'on les regarde bien. Oui, en effet, j'étais dans les années 70 étudiant en physique théorique. J'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais vous savez, dans le parcours des hommes, il y a toujours des femmes, et elle s'appelle Lucie, et j'ai craqué. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un de ses papas, qui est Yves Coppens, et qui m'a permis de faire donc ce merveilleux métier de paléo-anthropologue. Alors, comme vous n'êtes pas habitué à ma discipline, c'est paléo-ancien, anthropos l'homme, et logos la connaissance, bien sûr. Donc, c'est l'ensemble des disciplines, et il y en a beaucoup, qui s'intéressent à cette grande question universelle. D'où venons-nous ? Hein, vous savez, aujourd'hui, avec les chimpanzés, et j'y suis pour quelque chose, en tout cas, eux, les chimpanzés, ils l'ont pas fait exprès, mais le faire connaître, ça, c'est moi, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne le propre de l'homme est considérablement remis en question. Et dans cette aventure, en effet, il y a eu des bouleversements considérables venant, par exemple, du champ de l'éthologie. Alors, je vous fais cette petite réflexion parce que, en venant du monde de la physique, je n'avais pas été pollué par les sciences humaines. Donc, je suis arrivé avec une belle virginité. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 2, donc le DEA à l'époque, on me raconte l'homme descend du singe. Au bout d'un moment, je me dis, mais enfin, c'est qui ce singe ? J'aimerais bien savoir tout de même. Ben, rendez-vous compte, entre Charles Darwin et moi, aucun anthropologue ne s'est intéressé à cette question des relations avec les singes et les grands singes. Donc c'est complètement ahurissant, d'où encore les polémiques aujourd'hui. Il y a un film que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Chimpanzé, même si c'est fait par Walt Disney, c'est pas du tout les personnages de Walt Disney complètement anthropomorphiques. Donc au départ, on peut avoir une petite inquiétude. Il faut savoir que chez Walt Disney, depuis 30 ans, il y a un département qui fait de très beaux films sur les comportements des animaux sauvages, donc l'éthologie, ethos, hein, qui veut dire à la fois comportement et éthique, hein, c'est la même racine. Et ce film est absolument extraordinaire. Et bien, vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des bouleversements conceptuels considérables sur nos origines communes que j'aborderai. Mais pas tout à fait en détail. Alors, le titre de cette conférence, Charles Darwin et John Herschel, la science entre la Terre et les étoiles. Alors, d'où vient cette petite idée ? Ben, ça vient de quelqu'un que vous connaissez certainement bien ici, c'est M. Usan. Hein, on s'est retrouvé comme ça dans des colloques interdisciplinaires avec les quelques amis que tu as cités, cher Daniel. Et je dis, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez fascinant. C'est la rencontre donc entre Charles Darwin et John Herschel en juin 1836. Alors, John Herschel, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire qui c'est, mais en tout cas, son père, William, est celui qui a découvert Uranus. Et John Herschel, donc, fera toute sa carrière, lui, en Angleterre. Et il sera un des grands protagonistes de l'astronomie donc anglo-saxonne, et notamment un des cofondateurs de la Société d'astronomie, Royale d'astronomie, donc, dont il sera président plus tard. Et John Herschel avait écrit un traité d'épistémologie, justement, alors j'essaie de trouver son titre, ça s'appelle Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, en 1831. Ce texte très important sur la démarche scientifique et l'épistémologie va beaucoup marquer le jeune Darwin. Et 1831, date de la parution de ce traité, eh bien, c'est l'année où Charles Darwin embarque sur un bateau qui s'intitule le Beagle. Alors, vous savez que le Beagle, c'est un petit chien de chasse qu'aiment beaucoup nos amis anglais, et c'est aussi le nom du bateau, le Beagle, sur lequel s'embarque Charles Darwin. Et on a envoyé une sonde sur Mars il y a quelques temps qui s'appelait le Beagle, mais ce n'est pas le chien, c'est le bateau. Vous voyez, il y a toute une généalogie qui passe par Darwin. Et Charles Darwin, donc, part pour un voyage de 5 ans, mais il ignorait qu'il allait partir 5 années. Et avec notre ami Usan, quel est son prénom d'ailleurs, cet idiot Jean-Philippe Usan, je les ai appelés les étoiles du Sud. Pourquoi ? Ben parce que tout l'hémisphère sud était assez peu connu des naturalistes occidentaux. On est toujours un peu fasciné par l'histoire de King Kong, par exemple, ou la découverte du gorille. Le gorille sera découvert, entre guillemets, par les occidentaux en 1850-1851, ce qui donnera une controverse terrible, d'ailleurs, en Angleterre, qu'on appellera la guerre du gorille. Mais il faut savoir qu'on ne connaissait pas ce qu'il y avait à l'intérieur des terres de l'Afrique. On ne connaissait que les côtes. Et le premier à s'enfoncer sur le fleuve Gambie sera Paul Bellamy du Chaillu, et il décrira sa rencontre avec les gorilles, et c'est de là que vient le film King Kong. Mais ça donnera aussi une autre nouvelle célèbre de Joseph Conrad qui s'intitule « Voyage au bout des ténèbres » et qui sera le film « Apocalypse Now » de Coppola. Donc il y a toute une histoire comme ça qui est quand même absolument fascinante au cœur du 19e siècle. Donc Charles Darwin va voyager essentiellement donc en Amérique du Sud, il ira bien sûr un passage en Nouvelle-Zélande, un passage en Australie, bien sûr les Galapagos, ça va être fondamental pour la suite de ses travaux. Et puis sur la fin du voyage, en 1836, il fait une escale donc en Afrique du Sud, et c'est là qu'il va rencontrer cet homme dont il avait lu le traité, John Herschel. Donc ils vont discuter ensemble, et ce sera donc une rencontre absolument formidable, surtout pour le jeune Charles Darwin, parce qu'il y a quand même 17 ans qui les séparent tous les deux. John Herschel est déjà un personnage absolument immense. Et Darwin expliquera, parce qu'évidemment, quand on est jeune scientifique, qu'on est face à une sommité comme ça, on veut prouver qu'on est déjà un pied dans la vraie science. Et Charles Darwin, justement, exposera pour la première fois sa théorie de la formation des atolls et des barrières de corail. En fait, il y avait deux théories, celle de Charles Lyell, Charles Lyell étant le fondateur de la géologie moderne, qui sera d'ailleurs après un des protecteurs de Charles Darwin. Et Charles Lyell était aussi en relation avec John Herschel. Tout ça, c'est le même groupe, en fait. Hein. Et Charles Darwin expliquera, et cette théorie tient toujours, qu'en fait, les atolls de corail ou de coraux, eh bien, s'enfoncent tout doucement avec les fonds sous-marins, et puis que les coraux, qui sont des animaux, hein, eh bien, poussent pour rattraper le déficit en termes de descente par rapport au niveau de l'eau. Et c'est comme ça qu'effectivement, cette théorie, qui est confrontée à celle de Charles Lyell, qui lui pensait à une autre théorie, mais qui m'a échappé, qu'importe. Et là, cette théorie, aujourd'hui, même Charles Lyell dira, c'est la vraie explication sur la formation de ces barrières de coraux. Et à partir de là, évidemment, Darwin a son certificat d'un grand parmi les grands. Et d'ailleurs, l'histoire est très belle parce que quelques semaines plus tard, à peine, Charles Darwin repasse au Cap-Vert. Il pensait que le voyage allait se terminer, 5 ans quand même. Hein. Puis à l'époque, attendez, on n'a pas nos petits machins, là, on n'a pas Internet. On n'a pas la télévision, on n'a pas les satellites, on n'a pas le télégraphe. Et comment il faisait pour communiquer l'ami Darwin? Ben, il écrivait une lettre qu'il postait dans un port, en espérant qu'un bateau, la Royal Navy, vienne d'être passé par là. Et puis le courrier revenait, mais ils étaient repassés, et voilà. Et Darwin, après 5 ans de travail absolument extraordinaire, il se pose des questions. Est-ce que ce que je fais a une valeur scientifique? Parce qu'il naturalisait, il avait pris des fossiles, il avait fait des herbiers. Tout ça, ça partait dans des caisses, ça arrivait en Angleterre. Et son ami Henslow, professeur à Cambridge, botaniste, et Charles Lyell, se chargeaient de distribuer ces collections qui, les géologues, notamment l'immense Richard Owen, qui invente le terme de dinosaure, qui la botanique Henslow, qui la géologie Lyell, etc. Donc, Darwin, après 5 ans de travail, vous imaginez, il ne sait pas du tout s'il fait quelque chose de bien. Et c'est là qu'une lettre de ses sœurs arrive enfin à lui, et elles lui disent, « Notre très cher frère, sachez désormais que vous êtes un homme célèbre. » Vous vous rendez compte? Nous qui courons aujourd'hui, publish or perish, on veut de la reconnaissance immédiate, les commentaires, quand je sors un livre et nous tous, là, on veut savoir ce qui se passe. Vous travaillez pendant 5 ans, vous êtes célèbre et vous l'ignorez. C'est quand même une assez belle histoire. Je crois qu'on ne connaîtra plus jamais cela. En tout cas, la célébrité, oui, mais pas de cette manière. Alors, l'idée de cette conférence, c'est justement d'essayer d'expliquer pourquoi les astrophysiciens, les physiciens, en général, les scientifiques des sciences dures, ne comprennent rien du tout aux théories de l'évolution. C'est une catastrophe. Un des premiers, d'ailleurs, à avoir rien compris, et ce n'est pas quelqu'un de mince dans l'histoire des sciences, c'est Lord Kelvin. Lord Kelvin ne comprenait rien. Et aujourd'hui, puisque Daniel a eu l'amabilité d'évoquer mon livre « Lucie, l'obscurantisme », il y a, parmi des personnes ayant un statut scientifique solide et reconnu, et des prix Nobel, des personnes qui s'opposent aux théories de l'évolution et de la sélection naturelle, que je vais expliquer dans un instant, au nom, justement, d'une incompréhension sur ce qu'est ce couple variation-sélection. Car, comme je vous le dirai en conclusion, les théories de l'évolution, ce n'est pas une théorie des lois, c'est une théorie des mécanismes. Et à partir de là, vous avez une épistémologie radicalement différente. Alors, John Herschel, bon, vous connaissez mieux que moi, mais rapidement, son père avait découvert Uranus. Bon, il a hésité à s'engager dans la carrière de l'astronomie, mais il va y aller. Et je vous l'ai dit, il a créé en 1821 la Société royale d'astronomie d'Angleterre. Il découvrira, grâce au télescope de son père, deux satellites, alors je ne connais rien du tout moi, d'Uranus qui sont Oberon et Titania. Il écrira ce traité que j'évoquais tout à l'heure, et surtout au Cap Vert. Moi, ce qui au Cap, donc, de Bonne Espérance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, ce qui va fasciner le jeune Darwin, c'est que John Herschel sera de ceux qui va se délocaliser, pour prendre un terme d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'observer le ciel depuis le sud, ce qui n'avait quasiment pas été fait, à ma connaissance, en tout cas, avant cette époque-là. Il va découvrir le ciel depuis l'hémisphère sud. C'est quand même gigantesque. Il va rester plusieurs années, 4 ans là-bas. Et Darwin est celui qui va voyager et découvrir les faunes et les flores, donc la biodiversité de l'hémisphère sud. Or, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, tous les grands protagonistes autour de Charles Darwin, autour des théories de l'évolution, ce seront de grands voyageurs. Ces gens-là, Thomas Huxley, le fondateur de la dynastie, le grand-père d'Aldous et de Julian, sur le Rattlesnake, lui sera plutôt du côté de l'Australie, John Hooker, qui est lui qui succédera à son père aussi pour le Kew Garden, un immense botaniste, Russell Wallace, le fondateur de la biogéographie, sera aussi un grand voyageur. Et Charles Darwin était parti avec deux modèles de scientifiques, John Herschel et Alexander von Humboldt. Tous les jeunes hommes de cette époque qui voulaient faire de la science rêvaient de faire un grand voyage. Et Alexander von Humboldt, notre chance, c'est que notre petit Napoléon n'en voulait pas, parce que il était copain avec Alexandre III, qui était l'empereur de Prusse, et les Prussiens, les Français à cette époque-là, bon, c'était pas ça, quoi. Hein. Et donc, comme Alexandre III était l'ennemi de Napoléon, et que les Prussiens, évidemment, nous en ont fait baver, et réciproquement, Napoléon n'a jamais voulu, enfin Bonaparte à l'époque, n'a jamais voulu embarquer Alexander von Humboldt pour la première grande expédition scientifique de tous les temps, enfin en tout cas interdisciplinaire, qui était donc la campagne d'Égypte. Alors Humboldt, lui, du coup, il est parti avec Aimé Bonblanc en Amérique du Sud et ensuite en Amérique du Nord. Donc il y a comme quoi c'est une chance, sinon on n'aurait jamais eu l'inventeur de la climatologie et de la météorologie, donc Alexander von Humboldt. Donc voilà, c'est le grand modèle. Il y a une anecdote d'ailleurs assez sympathique. Quand on a perdu la campagne de France en 1814, les troupes prussiennes n'ont rien trouvé de mieux que d'installer leur bivouac en plein dans le jardin des plantes. Sympa, quoi. Et là, Cuvier écrit Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt envoie la lettre à son ami Alexandre III, et là, les militaires ont dégagé Dardar. Comme dit, comme quoi la science, quand même, c'est quand même pas mal, même quand on est entre belligérants. Donc, voilà rapidement ce qui se passe. Donc, John Herschel donc, est au Cap de Bonne-Espérance. Il rencontre Charles Darwin. Je vous l'ai dit, dans une lettre à l'aïeul, Darwin évoque la grande qualité et le bonheur de cette rencontre. Et sur la fin, c'est quand même assez extraordinaire, c'est que tout de même, vous allez à l'abbaye de Westminster, vous avez la tombe de Newton, la tombe de John Herschel et la tombe de Charles Darwin. Parce que les Anglais, ils ont beauté ce qui veut être ce que vous voulez, mais en tout cas, eux, ils honorent les scientifiques, hein, mais ça, c'est depuis Galilée. Hein. Dans le nord de l'Europe, on honore les scientifiques, nous, on les fait cramer. Donc, c'est pas la même façon de faire. Donc, ils les mettent dans les églises. Nous, le pauvre Lamarck, il a eu aussi pas mal de problèmes. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est un bon destin. Alors, ça, jusqu'à 1836, ça se passe bien. Et puis, Darwin rentre en Angleterre. Il s'installe à Londres entre 1839 et 1841, où là, il va commencer à ouvrir ses fameux carnets, ses notebooks, dans lesquels, notamment le numéro D, va être consacré à la transformation des espèces, ce qu'il appellera sa grande théorie qui donnera la sélection naturelle. Et là, ce seront des années extrêmement fructueuses pour Charles Darwin, jusqu'à qu'il se retire, mais pas de la vie scientifique, mais de la vie londonienne, en 1841, et là, il ne quittera plus jamais sa maison à Dunhouse de 1841 à sa mort en 1882. En attendant, Darwin va publier L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle en 1859, et là, il va être extrêmement déçu parce que John Herschel va faire un commentaire assez désagréable. Alors, en anglais, alors ça, je le prononce comme je peux, mais c'est Higgledy Piddledy. Grosso modo, c'est quoi cette théorie du bordel ambiant, quoi, comme dirait Moreno. Pardon pour ce qui ne veut pas être une vulgarité dans ma bouche. Bref, qu'est-ce que c'est cette histoire de confusion, d'agitation, de sélection naturelle et de variation? Personne ne comprenait cette histoire-là. Ben, au risque de vous surprendre, à part Darwin, personne n'a quasiment compris ce qu'était la sélection naturelle. Il va falloir attendre 80 ans pour qu'on ait enfin une bonne perception de ce mécanisme de la sélection naturelle entre ce couple variation-sélection. La sélection n'était pas trop le problème. Mais c'est d'où vient la variation? Pourquoi il y a la variation? Comment la variation se maintient tout le temps? Ça a été incompréhensible pendant plus de 80 ans. Mais Darwin, qui était un monsieur très bien éduqué, comme tous les autres d'ailleurs, enverra la troisième édition de son livre sur la sélection naturelle, et Jean d'Herschel aura un commentaire cette fois-ci un peu plus courtois et un peu plus équilibré sur le plan scientifique, Mais néanmoins, il ne comprend toujours pas la sélection naturelle. Mais il ne sera pas le seul. Pourquoi cela ? Justement, qu'est-ce que la théorie darwinienne de l'évolution ? La théorie darwinienne de l'évolution, en fait, c'est un corpus de nombreuses théories. Alors, le grand biologiste Ernst Mayr a fait beaucoup de travaux en épistémologie et en histoire de la biologie là-dessus. Mais lorsque Darwin publie l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, et ça, je suis, je crois, le seul à avoir fait ce commentaire, si vous réfléchissez deux secondes à ce titre, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Entre Galilée et Darwin, il y avait un consensus entre les sciences et la religion. Comme le disait élégamment Galilée, la religion dit comment va au ciel, la science dit comment va le ciel. Donc on s'arrange toujours à peu près avec la religion et le ciel. Mais sur Terre, on n'y arrivera jamais. Ça, je peux vous le dire, comme vous allez le voir. Et là, en effet, Darwin, qui était très précautionneux, qui avait une très bonne formation en philosophie, en épistémologie, écrira dans une lettre célèbre à son ami John Hooker en 1844, « Je me fais l'effet d'avouer un meurtre. Quel est ce meurtre ? Ben, le meurtre de la métaphysique occidentale, le meurtre de l'ontologie occidentale. » La métaphysique occidentale, effectivement, était arrivée à cette idée que, en grosso modo, la question des origines, donc de l'émergence, de l'apparition, c'était de l'ordre de la métaphysique, donc qu'elle soit de l'ordre de la théologie ou de la philosophie, tandis qu'une fois que les choses sont sur la Terre, qu'elles sont créées ou qu'elles sont mises en place, eh bien, c'est de l'ordre de la science et sa démarche matérialiste. Comme le dira Buffon, la science s'occupe des causes secondes, mais pas des causes premières. On ne touche pas. Ceux qui ont touché, d'ailleurs, il y en a deux qui sont passés par le Collège de France, ça leur a pas réussi, c'est Giordano Bruno et Vanino Vanini. Vous avez un peu la position que j'ai au Collège de France. Moi, aujourd'hui, on ne crame pas toujours, moi, je suis à côté du Panthéon, j'irai jamais au Panthéon, mais on ne va pas me cramer au Panthéon quand même. Bon. En attendant, c'est vrai que c'était quand même un petit peu chaud, c'est qu'à le dire, dès qu'on touchait sur la Terre à ces questions-là. Et Darwin sait qu'il marque une rupture fondamentale sur une tradition multiséculaire et multimillénaire qui est la séparation du corps et de l'esprit. La théorie darwinienne est une théorie moniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation du corps et de l'esprit. Il sera le premier à travailler sur les origines de nos comportements. D'ailleurs, le premier livre avec des photographies jamais publiées dans l'histoire de l'édition, c'est l'expression des émotions chez l'homme et l'animal en 1871. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement novateur. Ben ça, ça ne passe toujours pas. Là, aujourd'hui, en France, ça ne passe toujours pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que, justement, nos ontologies, nos compréhensions de notre rapport au sens et au monde, eh bien, Darwin va complètement les bousculer parce qu'il va nous dire qu'il n'y a pas de finalité, que l'évolution n'a pas de but et que c'est des mécanismes et qu'il n'y a pas de loi. Et ça, on n'aime pas du tout, même encore de nos jours. Quelles sont les différentes théories qui constituent le corpus de la théorie darwinienne de l'évolution ? Alors d'abord, il y a l'idée que les espèces ne sont pas stables, qu'elles se transforment, qu'elles se modifient. Alors ça, c'était déjà dans les tuyaux depuis un petit bout de temps. Il y avait eu le grand-père de Charles Darwin lui-même, Erasmus Darwin. Il y avait Jean-Baptiste de Lamarck, bien sûr, la première théorie à peu près cohérente de la transformation des espèces, qui ne fait pas intervenir de processus surnaturels ou de la métaphysique, c'est Jean-Baptiste de Lamarck. Erasmus Darwin est un immense bonhomme. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je peux vous dire que ce gars-là était incroyablement innovant, grand médecin. Mais en attendant, c'était un petit peu poétique. Vous savez, chez nous, dans la tradition, on dit il y a Marivaux, Marivaudet. À l'époque, on disait Darwin est to Darwinize. Donc voilà. Mais néanmoins, c'était quelqu'un de très sérieux sur le plan scientifique, un peu fantaisiste sur la forme. Et en tout cas, en France, Buffon, Maupertuis. Bon, l'idée que les espèces ne sont pas stables était quand même, depuis un siècle, quelque chose qui était admis par les biologistes. La vraie question était comment ? Évidemment, parce qu'en science, on veut les mécanismes ou les lois. Alors, Jean-Baptiste de Lamarck, qui d'ailleurs au passage invente le terme de biologie, c'est important, les sciences naturelles sont dégagées de toute théologie. C'est la première fois, le terme est de 1802 quand même. Et il dit que les espèces peuvent se transformer, dans une dialectique d'ailleurs qui n'est pas modifiée encore aujourd'hui dans ses principes, c'est que les espèces ont tendance à se perfectionner, mais ça ne va pas se faire tout seul. Si ça se fait tout seul, ça s'appelle du vitalisme. D'ailleurs, il y aura une controverse entre Xavier Bichat et Jean-Baptiste Delamarque sur cette question du vitalisme. Hein. Donc il n'y a pas de volonté ou de loi qui impose aux espèces de changer, mais elles ont la possibilité de changer, et ça, ça se fera à la rencontre des facteurs de l'environnement. L'environnement change, les espèces mettent en œuvre leur adaptabilité, ça c'est le terme n'est pas de l'époque, bien sûr, pour répondre au changement. Donc la parabole, c'est la girafe, hein. Il était une fois l'ancêtre des girafes qui avait un cou plus court, la couronne des arbres devient plus haute, donc il faut manger, et par une sorte de bodybuilding inconscient, les ancêtres des girafes donc changent leurs habitudes, donc la fonction crée l'organe, c'est l'expression, et acquiert un cou plus long, transmis à la génération suivante. Alors quand je dis comme ça, vous vous dites, oui, c'est un peu fort de café, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Ça, je vous l'accorde. Mais quand on vous met à la télévision, ou sur tous les manuels ou les bandes dessinées, l'histoire du gars qui sort de la forêt à moitié redressé et qui se met tout droit pour aller dans la savane, ça, je peux vous dire, c'est autre chose que d'allonger le cou. Et là, vous le gobez. Et j'ai mis 15 ans à sortir ça des programmes scolaires. Hein, ça me rappelle Pierre Dac qui disait, un humoriste fossile, mais enfin, vu la moyenne d'âge, vous connaissez. Je ne vais pas traiter de fossile, hein, je vous dis, vous connaissez. Vous savez, j'ai mon épouse qui est là, c'est Agatha Christie, j'ai transformé pour moi, qui disait, mesdames, mariez-vous à un paléanthropologue, c'est le seul mari qui vous verra vieillir avec intérêt. Bon, alors, sérieusement, maintenant, ça rappelle Pierre Dac qui disait, vous savez, vous imaginez ce grand singe comme ça à moitié dressé, la forêt dans l'eau, la savane devant lui, cet homme à l'avenir devant lui, s'il se retourne, il l'aura dans l'eau. Et 6 millions d'années avant Pierre Dac, le gars se redresse. Et on est là, oh, c'est beau l'évolution. Tiens, bon, on verra que ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc, mais vous savez ce qui est troublant ? Et soyez vigilants là-dessus. En science, plus vous êtes loin de l'homme, plus l'objectivité, la rationalité président à la compréhension des sciences. Plus vous approchez de l'homme, plus vous suivez ou subissez une attraction déformante universelle qui est l'anthropocentrisme. Plus on se rapproche de l'homme, plus on perd nos vigilances épistémologiques. Alors dans les étoiles, ça va. Avec les singes, ça ne se passe pas du tout bien. Alors, l'idée que les espèces se transforment, oui, ça, c'était bien accepté. Et arrêtons la controverse stupide entre Lamarck et Darwin. Lamarck, parmi les autres, est un de ceux qui formalisent le mieux la transformation des espèces. Cette dialectique facteur interne, facteur externe, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la variabilité, c'est la qui donne de la variation, c'est la génétique. Et là, il y a la sélection de l'environnement. Donc, le principe n'a pas changé, sauf que Lamarck n'avait pas les mécanismes, hein, on ne peut pas lui dire de tout inventer. La génétique, même Darwin sera embêté avec ça, ça viendra bien plus tard. Et derrière cela, Darwin va apporter le mécanisme. En termes de science, c'est exactement ce qui s'est passé entre Alfred Wegener et la tectonique des plaques. Alfred Wegener propose une théorie extrêmement bien argumentée sur la biogéographie, une théorie extrêmement argumentée avec la distribution des fossiles et des faunes. Par exemple, vous avez des fossiles de crocodiles qu'on ne trouve que du côté du Gabon, et les autres, vous les avez du côté du Brésil, donc dans le nez du Brésil, si je peux l'exprimer ainsi. Et ça s'emboîte parfaitement, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on trouve du pétrole au Gabon et du pétrole de l'autre côté. À l'époque, on ne le savait pas. Simplement, voilà, qui déplace les continents ? Je veux dire, on veut bien que les continents soient déplacés, mais enfin, quand même, à moins de trouver une théorie à abracadabrante, d'ailleurs, que raconte très bien notre ami André Barrique avec Tycho Brahe, parce qu'ils avaient bien vu, les gars, que les planètes tournaient autour du Soleil, mais il fallait remettre le Soleil au centre de la Terre, donc il y avait des anges qui tournaient avec des roues, avec des anges. Enfin, un truc délirant, quoi. Bon, tout ça pour ne pas se faire cramer une fois de plus. Donc là, très clairement, on ne savait pas ce qui poussait les continents. Et ce n'est que 60 ans plus tard, ou 50-60 ans plus tard, que l'observation des fonds océaniques mettra en évidence donc la fameuse fracture médio-océanique, donc des fonds marins, et c'est l'invention de la technique des plaques. Voilà. Donc, ben c'est exactement la même chose. Lamarck donne le principe, Darwin donne le mécanisme, mais pas tout seul une fois de plus, il sera avec Russell Wallace. Donc ça, première théorie, les espèces se transforment, tout le monde est d'accord là-dessus, enfin, tous les biologistes. L'autre chose, l'ascendance commune. L'ascendance commune, que les espèces soient issues d'ancêtres communs qui se distribuent dans l'arbre de l'évolution. Eh bien, cette idée aujourd'hui qui peut vous sembler assez simple, ben, elle n'est pas du tout, nullement. Parce que chez Lamarck, par exemple, Chaque lignée est indépendante. En fait, il reprend dans sa philosophie zoologique l'idée d'Aristote, qui est l'échelle naturelle des espèces, hein, ce truc-là qui monte. Alors, Aristote, c'est génial à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, il faut le dépasser quand même. Hein. Et en fait, l'idée est que dans la nature, il y a un nombre complet de formes. Même Charles Lyell reprendra cette idée-là. D'ailleurs, c'est toute la philosophie des mondes perdus de Conan Doyle. L'idée était que, ouais, il y a peut-être des espèces de mammifères et d'oiseaux qui sont les plus évoluées en Europe, en Amérique du Nord, mais certainement qu'il existe ailleurs dans le monde des faunes qui sont restées en panne d'évolution. C'est ça l'idée des mondes perdus. Le grand Cuvier en France, là, dans les carrières de Montmartre, avait trouvé un animal marsupial, dit Delphis, la sarigue. Vous imaginez un marsupial à Paris? Les marsupiaux, ils sont en Amérique du Sud et ils sont donc en Australie. Donc les faunes ont bougé. Donc l'idée, effectivement, qu'il y avait des endroits du monde où des faunes étaient plus avancées et d'autres plus primitives. Comme à l'époque, on pensait que les Occidentaux étaient les plus avancés, puis les autres étaient restés en panne d'évolution, hein, les Noirs et compagnie. Vous voyez ? C'était ça l'idée. Donc on voyageait dans l'espace, on voyageait aussi dans le temps. Et l'idée magnifique de Crichton qui donnera le Jurassic Park, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée de retrouver les mondes perdus. Donc, vous voyez, ce n'était pas évident cette affaire-là, et en fait de comprendre que, en fait, et c'est ça qui est important, c'est que les idées d'évolution, mesdames et messieurs, ne viennent pas des fossiles. On a compris les fossiles, qu'après avoir compris que les classifications, donc les relations de ressemblance entre les espèces, en fait étaient issues d'une histoire. Et que pour témoigner de cette histoire, il y avait bien des espèces qui avaient disparu, et ça sera les fossiles. Donc ce n'est pas la paléontologie qui a donné les théories de l'évolution. Ce sont les théories de l'évolution, la compréhension des biodiversités, des classifications, qui ont donné intelligence à ces fossiles qui étaient là, mais qui étaient quand même bien embarrassants, parce qu'on ne les comprenait pas trop. Vous voyez ? Donc, mais attendez, classification, comment ? Darwin est le premier à comprendre que les classifications racontent une histoire. Et puis surtout, mesdames et messieurs, qu'aucune espèce est restée en panne d'évolution. Il n'y a pas de monde perdu. Chaque fois, quelqu'un dans une conférence me demande « Ok, monsieur Pic, mais pourquoi le singe n'a pas évolué ?» Ricanement des babouins dans les savanes. Il n'y a pas une espèce qui est restée en panne d'évolution. L'arbre de la vie, c'est comme un arbre taillé à la française, ou d'ailleurs l'image de Charles Darwin. C'est les coraux. Vous avez à la surface que l'expression des espèces est plus récente. Et en dessous, ça s'enfonce et ce sont les fossiles. D'accord ? Et quand on dit une espèce est archaïque chez nous, ça ne veut pas dire qu'elle est restée au bord du chemin de l'évolution. Enfin, des chemins plutôt. Cinq doigts, c'est archaïque. Ça veut dire quoi chez nous ? Que le plan de construction d'un membre terminé chez un mammifère par cinq doigts est apparu il y a fort longtemps dans l'histoire de la vie, au moins 300 millions d'années. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué en termes de fonction. Vu ? Archaïque chez nous, ça veut dire que c'est apparu il y a plus longtemps. Vu ? Comme si la voiture est plus archaïque que l'avion. Mais les voitures ont continué à évoluer. Bon, sauf chez certains constructeurs, mais on ne va pas polémiquer. Mais, voilà, donc, donc, vous voyez qu'on dit archaïque chez nous, ça ne veut pas dire que ça n'a plus évolué, mais que la structure est plus ancienne. Et là, en ce moment, on a des surprises, je peux vous dire. Parce que, avec les nouvelles méthodes de classification, enfin, nouvelles, Darwin l'avait dit, mais on a eu du mal à les comprendre et à les mettre en œuvre un siècle plus tard, donc quand j'arrive d'ailleurs du monde de la physique dans le monde de la paléontologie, c'est que dans les classifications, il y avait pendant longtemps, une idée à la fois des ressemblances entre les espèces. Bien sûr, on sait que les singes sont entre eux, que les chevaux et les ânes, c'est le même groupe, que les bovidés, c'est pareil entre eux, hein, d'accord. Mais dans les détails, il y avait des petits problèmes. Parce qu'on classait, avec objectivement de bons critères hiérarchisés, qui faisait qu'on a l'homme et les grands singes qu'on appelle hominoïdes avec les autres singes qu'on appelle anthropoïdes, les anthropoïdes avec les autres lémuriens qu'on appelle les primates. Donc c'est un système hiérarchique qui nous vient d'ailleurs des grands classificateurs du XVIIIe siècle, un peu avant, les Linné, Tournefort, Jussieu, tiens, les Jussieu, etc., etc. Bon voilà, donc la méthode est connue depuis longtemps, mais on classait en ayant quand même une idée de l'évolution. Et c'est ce que vous avez appris à l'école comme moi, l'homme descend du singe. Donc, je serais venu ici avec les gorilles, chimpanzés, orang-outans, mais Daniel n'y tenait pas. Vous diriez, il ressemble quand même beaucoup à Pascal Pic, ça d'accord. Mais ça vous inclut dans le lot. Et vous diriez, mais tout de même, chimpanzés, bonobos, qui sont d'autres chimpanzés, gorilles, orang-outans, se ressemblent plus entre eux qu'à moi, à nous. Et ça semble assez évident sur la morphologie. Parce qu'ils ont des jambes courtes et un peu fléchies, de longs bras parce qu'ils suspendent dans les arbres, ils ont de longs poils, ils vivent dans les forêts. Nous, nous sommes plutôt de la savane, élancés, longues jambes, bras un peu plus courts. Donc, personne n'a jamais mis en doute que ces grands singes soient les espèces les plus proches de nous dans la nature actuelle, mais néanmoins, ils formaient un groupe plus homogène, plus resserré en termes d'évolution que nous qui nous étions séparés d'eux. Et on disait à l'époque, moi j'ai appris ça il y a 15 millions d'années. Et puis, arrive dans les années 70... Et en science, vous le savez, on avance avec de nouvelles observations et de nouveaux paradigmes, pour parler de manière un peu pompeuse. Hein, c'est Thomas Kuhn. C'est de la famille, tiens ? Non, d'accord. Ça aurait été pas mal. Hein. Dans cette nouvelle approche qu'on appelle la systématique, c'est observer, comparer, classer. Il y a des méthodes, et je vais vous dire qu'elles ne sont pas si simples que cela. Et ça n'a fait qu'une trentaine d'années que, d'une part, on a eu accès à de nouveaux caractères qui nous étaient pas possibles d'observer auparavant, notamment les molécules, ce qu'on va appeler la systématique moléculaire. Or, les molécules, aujourd'hui, c'est le séquençage de l'ADN, mais à l'époque, il y a 30-40 ans, c'était les immunoglobines, c'était les groupes sanguins, les chromosomes aussi, ça a commencé en France d'ailleurs, cette affaire-là. Donc, l'avantage, c'est que les chromosomes et les molécules, ça n'a pas de poils et ça n'a pas d'écologie. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori. C'est l'avantage. Et surtout, on commence à mieux classer en termes de relations de parenté. Darwin est le premier à dire que les classifications sont les conséquences d'une histoire, donc la structure de l'arbre du vivant. Le premier arbre de classification, c'est dans l'origine des espèces. Et puis surtout, que ce sont des relations de parenté. Et là, ça va changer énormément de choses, comme vous allez le voir. Parce que si vous dites, comme je l'ai appris, l'homme descend d'un grand singe, vous avez affaire à un gros paquet de grands singes, dont certains se trouvent en Afrique, gorilles, chimpanzés, bonobos, et d'autres se trouvent en Asie, les orang-outans. Et du coup, vous n'avez aucune hypothèse testable, au sens de Popper, sur nos origines géographiques, une hypothèse sur, à la fois, l'âge de la séparation entre les grands singes et nous, et troisièmement, vous n'êtes absolument incapable de reconstituer notre dernier ancêtre commun. Si ce n'est que vous en faites l'économie, puisque le chimpanzé n'est pas notre ancêtre, mais notre ancêtre ressemble à un chimpanzé. Imaginez, chers amis, que je vous dise que je descends de ma sœur. Bon, on a une famille avec des mœurs normales. Je vous le dis tout de suite. Ma sœur est la plus proche de moi dans la nature actuelle. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est avec elle que je partage le plus grand nombre de caractères et qui viennent de nos parents. C'est quand même simple à comprendre, non ? On a mis un siècle pour les espèces. Les chimpanzés sont les plus proches de nous, et on a dit qu'ils représentaient l'image de notre ancêtre. Non, nous avons un ancêtre commun. Et à partir du moment où vous avez une classification qui est basée sur la relation de parenté, sans se faire aucun a priori sur archaïque ou évolué, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez donner comme hypothèse ? Et là, vous avancez. D'abord, faire une hypothèse sur nos origines géographiques. Puisque forcément, l'espèce la plus proche de nous, et Darwin avait déjà vu que c'était les chimpanzés, eh bien, se sont séparés nécessairement dans des zones géographiques voisines, ce qu'on appelle la vicariance. Comme l'homme est partout sur la Terre, on ne sait pas d'où il vient, mais comme les chimpanzés sont africains, Darwin fait l'hypothèse que nos origines sont africaines. On va mettre un siècle pour vérifier nos origines africaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ouais, l'Afrique, l'Afrique !» Ben, je peux te dire que pendant un siècle, le seul slogan, c'était « Tout sauf l'Afrique ». Pour les raisons que vous comprenez bien. Deuxièmement, on peut faire une hypothèse sur la date, puisque plus des espèces se séparent, plus accumulent des mutations. Et des deux côtés, évidemment. Ils ne sont pas restés en panne d'évolution, les chimpanzés. Et à partir de là, ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, grosso modo, bon, c'est pas une horloge suisse, hein, mais enfin, c'est grosso modo une mutation tous les millions d'années. Ça dépend des systèmes génétiques. Eh bien, vous arrivez sur une estimation de 7 millions d'années. Vous voyez, on a avancé. Avec la bonne classification, on fait une hypothèse sur les origines géographiques, on fait une hypothèse sur la date de séparation, et troisièmement, on peut faire une reconstitution, un portrait robot du dernier ancêtre commun. Et ça, le premier qui l'a fait, vous l'avez devant vous. Entre Darwin et moi, personne ne s'est occupé des grands singes, en tant qu'anthropologue, j'entends. Et donc, pour faire la reconstitution du plus grand dénominateur commun qu'on appelle le DAC, pas Pierre Dac, hein, mais dernier ancêtre commun, eh bien, il faut savoir comment sont les chimpanzés. Si vous voulez faire plus grand dénominateur commun, il faut quand même que vous ayez une idée de ce que sont les autres espèces qui sont nos sœurs d'évolution. Eh bien ça, vous voyez, vous allez voir, c'est toujours pas compris. Donc vous voyez, pourtant, ce que je vous dis là, ça apparaît simple. Mais vous voyez ce qui est difficile en science, pour nos cerveaux d'Homo sapiens, ce n'est pas la complexité des théories en soi, c'est changer de schéma de référence. C'est le plus difficile, c'est les changements de paradigme. Quand vous êtes dans le paradigme darwinien, toutes les choses coulent de source. Mais vous avez encore une oreille dans l'un et une oreille dans l'autre, là, vous êtes foutus. Hein. Donc, vous voyez, l'ascendance commune, ce n'est pas... c'est une théorie qui est acceptée, mais vous voyez, dans les détails, il y a quand même énormément de différences entre l'idée qu'il y a des lignées indépendantes, entre l'idée du gradualisme, l'idée qu'on descend des grands singes qui sont restés en panne d'évolution, et l'idée aujourd'hui, donc, des relations de parenté. Même cette idée-là, qui nous semble simple, à l'intérieur, elle contient des sous-théories, des sous-représentations qui sont radicalement différentes. Troisième aspect de la théorie, le gradualisme. Darwin pensait que les espèces se modifiaient graduellement, par accumulation progressive de petites modifications, de variations, comme il le disait. Et ça, Darwin s'en est méfié de ce truc-là, parce qu'il n'en voulait pas, de cette idée que des espèces puissent apparaître de manière brutale, ce qu'on appelle le saltationnisme. Et mon Dieu, comme il avait raison, parce qu'évidemment, ça va débouler à toute vitesse dans les années 1930 et récemment en France. Et la veille de la publication de l'origine des espèces, Thomas Huxley dira à Charles Darwin, « Vous encombrez votre théorie d'un fardeau inutile. » L'idée que, nécessairement, l'évolution est graduelle et progressive, ce qu'on appelle le gradualisme phylétique. Et Darwin ne démordra jamais cela. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans les années qui suivent? Il va y avoir d'abord un acquis considérable dans l'histoire des sciences qui va annoncer la génétique. Gregor Mendel, d'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi un moine dans un monastère s'intéresse à l'hérédité et la sexualité des petits pois. En attendant, il l'a fait. Et donc, Mendel a démontré que vous savez qu'il n'y avait pas hérédité par mélange. Il y a ce qu'on appelle des entités des gènes. Et des gènes, on saura, ça c'est Mendel, la génétique mendélienne, des gènes dominants, récessifs, et que ça peut sauter une génération, selon les expressions populaires que vous connaissez bien, mais qui sont pertinentes. Bien. Et juste un petit peu après... August Weismann sera celui qui démontra qu'il n'y a pas hérédité des caractères acquis. Alors lui, c'est un radical. Hein. Il prend des souris, il leur coupe la queue, les fait se reproduire, les souris sont une queue. Voilà, c'est réglé. On ne peut pas faire plus clair comme démonstration. Hein. Donc, alors c'est plus compliqué que ça, parce que Weismann, évidemment, c'est celui qui va résoudre la question de l'hérédité des caractères. C'est une question extrêmement compliquée dans les théories de l'évolution. Et donc, il va bien dissocier entre les cellules somatiques, celles de votre corps, et les cellules germinales, donc celles que vous transmettez à votre descendance. Évidemment, ce sont que, évidemment, ces cellules, enfin, ces gènes qui sont transmis à la génération suivante. Et bien là, c'est le vrai terme de néo-darwinisme. Car effectivement, même Darwin ne savait pas, et là encore, à cette époque-là, on ne sait pas d'où vient la variation. On n'a pas encore la notion de mutation. Hein. Il démontre les lois de l'hérédité. Il sépare les cellules somatiques des cellules germinales. OK ? Ça, c'est déjà fondamental. Et August Weismann sera un des seuls, avec Russell Wallace, le co-inventeur de la sélection naturelle, mais ça, j'y viens tout à l'heure, de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, Darwin est à peine mort, et même de son vivant, que même ceux qui soutiennent, Charles Lyell, Thomas Huxley, Même Russell Wallace, en moyenne, il ne comprend pas tout à fait. Même s'il est co-inventeur de la sélection naturelle, lui, il pense que c'est une population qui en prend une autre. Vous voyez ? Et non pas ça se passe au sein d'une même population, entre individus de la même population. Vous voyez comme quoi ce n'est pas si simple que ça. Hein ? D'ailleurs, c'est intéressant parce que Russell Wallace sera aussi un très grand militant socialiste. Et donc, il y a les prémices un petit peu... Il y a des idées un peu marxistes là-dedans. Hein. C'est pas la lutte des classes, mais c'est une population qui prend sur une autre, vous voyez. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Alors que Darwin, lui, est vraiment issu d'une famille libérale au vrai sens du terme. Hein. Donc, Darwin... D'ailleurs, Karl Marx va bien voir le truc, je peux vous le dire. Alors, en attendant, August Weismann fait une formidable avancée sur la sélection naturelle, mais, en fait, à part des géants comme Weismann et Russell Wallace... Tout le monde a oublié la sélection naturelle. Parce qu'on ne comprend pas d'où viennent ces variations. On comprend ça que sélectionne, mais on ne comprend pas la variation. Et c'est là, alors j'y viendrai à nouveau sur ce sujet-là, et arrive la génétique de laboratoire, c'est intéressant. Et c'est là qu'on découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les macromutations avec les gènes homéotiques. C'est-à-dire qu'on bricole des mouches, il y en a qui ont deux antennes à la place des yeux, donc des macromutations. Et c'est là qu'arrivera ce que craignait Darwin, la théorie des monstres prometteurs de Goldschmidt. L'idée que l'évolution, c'est des macromutations, et paf, d'un seul coup, vous avez une nouvelle espèce. Boum ! Vous allez dire, ça fait doucement marrer, mais pas du tout, parce que c'est arrivé dans nos programmes scolaires, avec un monsieur que j'aime bien par ailleurs, mais là-dessus, je ne loupe pas, hein, c'est Jean Chalide, spécialiste des souris qui s'occupe des hommes. Alors, des souris et des hommes, pas toujours gagné. Hein. Donc, alors, il a deux versions. Une version chromosomique, et une version avec les gènes homéotiques, mais c'est la même salade. Nous, les hommes, nous avons 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes. Les chimpanzés et les grands singes en ont 48, donc 24 paires. Il faut savoir que notre chromosome numéro 2, chez nous, c'est une fusion du 2 et du 10, ce que François Jacob appellera les bricolages de l'évolution. Alors voilà l'idée de Jean Chalide. Donc, il était une fois l'ancêtre des hommes qui ne sont pas des chimpanzés, mais qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un chimpanzé, donc à moitié adressé comme ça. Et puis voilà qu'il y a une combinaison chromosomique. Toum ! Il y en a un qui est tout droit, dites-donc. Et ça, mesdames, ça ne peut pas arriver à une femme ou une femelle. Forcément au mâle dominant. Donc le mâle dominant, les femelles, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce gars-là ! Et avant tout de se reproduire avec lui, et les autres mâles, bah, les mecs, on n'a pas la mutation, on laisse tomber notre libido. Alors ça... Chez les chimpanzés, vous pouvez compter sur eux. Hein. Donc, non, mais attendez, ça a été publié. C'était des programmes scolaires. Alors, même version que les gènes homéotiques. C'est les gènes homéotiques, c'est les gènes architectes. C'est les gènes qui codent pour la structuration de votre corps. Hein, et on a les mêmes que chez les mouches. Hein. Vous prenez les gènes homéotiques de l'homme, vous le mettez sur la mouche se développe normalement. On peut le faire dans l'autre sens, mais Axel Kahn, il n'est pas très chaud. Donc... Le comité d'éthique vous tombe dessus, hein. Il n'a peut-être pas tort. Ben, attendez, on a même fait des manipulations génétiques avec des gènes qui sont par là, qui codent ici dans ce coin-là, hop, vous avez des mouches à grosse tête. Ça fait froid dans le dos, hein. Déjà qu'on a du mal à les attraper, c'est une grosse tête en plus, c'est mal barré pour cet été. Hein. Donc tout ça, alors ce qu'on appelle les bilatériens. Les bilatériens, c'est tous les animaux, si on comprend bien sûr les insectes, qui ont une symétrie. Bilatérale. Hein. Nous avons une symétrie bilatérale, des petits changements, évidemment, pour le cœur, etc. Et ça, ce sont les mêmes gènes. Vous vous rendez compte, une des preuves de l'évolution qui est à l'œuvre aujourd'hui dans nos corps, au cours du développement, ce sont ces gènes architectes, ces gènes homéotiques. Alors, on ne savait pas à l'époque. Ben, alors, vous imaginez bien que vous avez une grosse mutation là-dedans, paf, ça vous fait un truc un peu bizarre. Et donc là, pareil, la version homéotique, ben, c'est pareil, il y a un mâle dominant, paf, qui a la mutation, il se retrouve tout droit, parce qu'évidemment, il y a des gènes qui codent pour ça, et toutes les femelles, bon, je ne refais pas l'histoire. Donc, un peu délirant, quoi. Un peu délirant. Ben voilà, ben, c'est revenu dans les années 70-80, cette affaire-là. Or, attendez, il y a quelque chose qu'on a redécouvert depuis, et là aussi, c'est Charles Darwin, ça s'appelle la sélection sexuelle, j'en parlerai dans un instant. Et parler de sélection sexuelle en 1871, au moment où la reine Victoria n'est pas franchement dans sa période libidineuse, fallait quand même le faire. Bien. Et là, parce que vous avez beau avoir la super mutation, ben, il faut que les femelles soient d'accord avec vous. Hein. Et les autres mâles, vous croyez bien qu'ils ne vont pas laisser tomber leur libido comme ça, les gars. Hein. Donc, vous voyez, donc c'était le problème, vous voyez, de la macromutation, la théorie du monstre prometteur de Goldschmidt. Donc ça a vraiment marqué toute la génétique du début du XXe siècle jusqu'à ce qu'on arrive, évidemment, à la théorie synthétique de l'évolution. Et là, donc, effectivement, on appellera ça le néo-darwinisme, mais le vrai néo-darwinisme, c'est Weismann, donc ça sera le néo-néo-darwinisme, ou théorie synthétique de l'évolution, parce qu'effectivement, les mutations dans le labo, ça va, les monstres prometteurs, mais dans la nature, les naturalistes, ils disent, c'est quoi ce truc-là? Nous, on ne l'a jamais vu comme ça, un gugus se redresser, ou une macromutation de cet ordre-là. Hein, et en effet, les naturalistes sur le terrain, qui eux ont affaire à des populations, ils voyaient bien, comme Darwin, au cours de ses voyages, qu'il y avait donc de la variation. Et donc tout ça sera résolu grâce à la génétique des populations, en effet, dans les années 1940, mais, et donc théorie synthétique de l'évolution. Pourquoi synthétique? Parce que la génétique, les mathématiques, hein, les modèles, la loi de Hardy-Weinberg, bien sûr, la transmission des caractères génétiques, donc les mathématiques interviennent là-dessus, hein, c'est important, ce sont de vrais outils. Génétique des populations, paléontologie, parce qu'au risque de vous surprendre, chers amis, les paléontologues ne comprennent rien à l'évolution. Ça peut vous surprendre. Et ça, c'est très important par rapport au monde de la physique. Même si aujourd'hui, avec la théorie standard de l'univers, il y a une histoire de l'univers avec le Big Bang, etc., mais ça, c'est vachement récent, ceci dit, il y a une double épistémologie dans les théories de l'évolution. Et ça, j'attire votre attention là-dessus, parce que vous allez voir, ça prend de l'importance pour la sélection naturelle. C'est qu'il y a une épistémologie historique. Comment s'est faite l'évolution, donc le grand passé, donc la paléontologie. Et moi, ce dont je vais vous parler, c'est Darwin, c'est comment se fait l'évolution, ces mécanismes. Et donc, ça s'articule de deux manières. C'est-à-dire que l'épistémologie des théories de l'évolution, la biologie au sens clair, c'est exactement comme l'épistémologie que vous avez en physique et en chimie. On l'expérimente, on observe, on modélise. Mais vous avez une dimension supplémentaire qui est l'histoire, qui contraint, comme le dira joliment, je vais pas le dire, François Jacob, le jeu des possibles. Vous allez voir que ça, c'est extrêmement important. Donc, je vous dirai dans un instant, il n'y a ni hasard ni nécessité. Là, Mono est un petit peu embêtant dans cette affaire. Donc, en fait, on résolvera ce problème du gradualisme phylétique de Darwin. Hein, je suis toujours sur cette question-là, en fait. Hein. En fait, Darwin avait bien vu qu'il y avait des rythmes qu'on appelle Rhythm and Tempo of Evolution. C'est un livre célèbre des années 1950. Qui sera repris avec les travaux de Stephen Jay Gould, dont vous connaissez au moins le nom, je suppose, qu'on appellera la théorie des équilibres ponctués. Hein. En fait, l'évolution, c'est des périodes de relative stabilité, c'est peut-être des périodes d'évolution un peu graduelles, entrecoupées de périodes de changement rapide. Et ça, il faut sauter, donc ôter de notre esprit l'idée que l'évolution, c'est un long fleuve tranquille. Vous avez des périodes de relative stabilité et développement de la biodiversité entrecoupées de ce qu'on appelle des crises. Hein, vous avez vu Jurassic Park, vous êtes un super tyrannosaure, hey, vous ramassez un météorite dans le genre instantané. Alors, bonne nouvelle, hein, les dinosaures n'ont pas disparu, ça s'appelle les oiseaux. Hein. Une poule de Bresse et un tyrannosaure, c'est fait pareil. Sauf que pour la cuisine, la chasse et le gavage, ce n'est pas la même technique. D'ailleurs, c'est curieux, d'ailleurs, dans Jurassic Park, et pourtant c'était bien documenté, c'est idiot. Il recompose le génome des dinosaures en prenant des grenouilles. Alors qu'à la fin du film, on voit bien qu'il y a des oiseaux. Hein, ils auraient dû prendre des génomes d'oiseaux. Donc là, je n'ai pas compris la manœuvre. Mais en tout cas, donc effectivement, il y a des crises. Mais alors, il n'y a pas que des crises liées aux catastrophes naturelles. Hein, je rappelle que même pour nous, après la Première Guerre mondiale, quand on déboule d'un seul coup le virus de la grippe espagnole, une partie de votre système génétique vient de là, hein, 50 à 100 millions de morts. Hein, dans le genre sélection brutale, c'est quand même pas mal non plus. Ou la peste noire de 1327, si je ne me trompe, enfin, on n'y était pas, hein, mais 1327, il y a deux personnes sur trois quasiment qui ont disparu en Europe. Donc là, ça vous fait ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Voilà. Donc l'évolution, donc ça s'appelle les équilibres ponctués. Donc il y a toujours du gradualisme, mais selon des variations différentes, et il faut toujours réfléchir en termes de variation. Donc, vous voyez, l'idée d'ascendance, l'idée de gradualisme, c'est quand même, là aussi, c'est pas si simple que cela. Et là, c'est tout à fait lié à l'apparition de nouvelles espèces. C'est le quatrième aspect de la théorie, comment apparaissent de nouvelles espèces. Ben alors ça, c'est pas si simple. Parce qu'il faut avoir une définition. Or, la définition de l'espèce, et c'est la même étymologie, ça vient d'essence. Or, une essence, dans la tradition de la philosophie essentialiste platonicienne et aristotélicienne, une essence est éternelle. Alors, pour faire évoluer un machin comme ça, c'est pas évident. Donc, on a un vrai problème épistémologique. Et c'est là que vous allez comprendre le deuxième aspect révolutionnaire sur le plan épistémologique de Darwin. Je vous l'ai dit, Il dit l'origine, donc il touche à l'origine, des espèces, et vous savez quoi? À la 30e page de l'origine des espèces, il se débarrasse du concept d'espèce. Comme ça, on est moins embêté. C'est quand même pas mal comme truc, hein. Et au moyen de la sélection naturelle. Sélection naturelle, c'est matérialiste, c'est sur la Terre. Donc, il touche aux origines et aux espèces, qui sont des entités, des concepts qui viennent de la philosophie, au moyen d'un mécanisme parfaitement terrestre, qui est la sélection naturelle. Bonjour le matérialisme, et ça, ça passe toujours pas. Comment apparaissent ces espèces? Je vais vous donner un exemple avec Néandertal, ça va être aussi simple que cela. Imaginez que là où nous sommes aujourd'hui, en France, il y avait, il y a 40 000 ans, deux espèces d'hommes. Nous, les Homo sapiens, et les hommes de Néandertal. Mais nous savons depuis 2 ans qu'il y avait bien plus que cela. Que s'est-il passé? Nos origines, vous savez maintenant, c'est bien établi, sont africaines. Le genre Homo, donc le premier homme, première espèce, apparaît en Afrique entre 2 millions et 2,5 millions d'années. Et là, c'est le premier grand singe à s'affranchir du monde des forêts. Tous les grands singes dépendent du monde des forêts. Donc, nous avons quasiment notre morphologie en dessous du crâne. Notre crâne, lui, va continuer à beaucoup se modifier. Et ces hommes, donc, vont sortir vers 2 millions d'années d'Afrique. Ils restent en Afrique, bien sûr, ils se déploient en Afrique, mais ils vont se déployer sur l'Europe et l'Asie. Donc, des populations se dispersent, s'isolent, etc. Et ça, c'est le meilleur moyen pour qu'apparaissent de nouvelles espèces. Alors, dans ce que je vous dis là, ça peut vous paraître simple, mais ça veut dire quoi ? Qu'à partir d'une même espèce ancestrale, vous allez avoir diversification d'espèces. Plusieurs espèces vont se séparer. Donc il va y avoir, au fil du temps, les hommes de Néandertal sur l'Europe et l'Asie occidentale, découverts depuis 2 ans grâce à de l'ADN mitochondrial dans une petite phalange mise au jour dans une grotte de l'Altaï au sud de la Sibérie. Donc, les hommes et les femmes de Denisova, donc nous savons qu'il y a eu une autre espèce d'homme, et alors c'est fabuleux. On sait qu'ils ont existé par l'ADN, mais on ne sait pas comment ils étaient. C'est quand même merveilleux ce qui se passe chez nous. Il y avait, ça on n'en parle pas trop, des hommes de Solo à Java, donc une île isolée, mais une grande île quand même. Et puis vous savez, alors là, il y a pas mal de controverses. Il y en a qui sont partis à la rame, si je puis dire, de l'autre côté de la ligne de Wallace. C'est quoi la ligne de Wallace? C'est Russell Wallace, une fois de plus, hein, Russell Wallace, ami de Darwin. La ligne de Wallace, c'est cette ligne biogéographique qui dit que d'un côté vers l'ouest, enfin vers l'ouest pour vous, ce sont des mammifères placentaires, comme vous et moi, qui a placenta, et l'autre côté, c'est des mammifères marsupiaux. Et en fait, aucun mammifère placentaire n'est passé de l'autre côté avant que des hommes, évidemment, ne traversent volontairement pour aller en Australie, et il y a eu plusieurs vagues. Mais quand même, il y a eu 2 tentatives qui nous sont connues à l'heure actuelle. Ben, ce sont des hommes. Il y a 800 000 ans peut-être, ou plus récemment, ça, je veux dire, l'archéologie est discutable actuellement. Et des stégodones. Les stégodones, c'est des cousins des éléphants. Et vous savez, vous ne savez pas, dès que vous avez des grands mammifères qui arrivent sur une île, ils deviennent nains. Et dès que des petits arrivent sur une île, ils deviennent géants. Donc sur les îles, vous avez des rats géants. Et vous avez des hommes nains et des éléphants nains. On a aussi, par exemple, des hippopotames nains à Chypre qui ont été isolés. On a des cerfs nains qui ont été isolés également en Méditerranée et du côté de la Californie. Et aussi une île près du Japon. Les derniers mammouths sur les dernières îles, l'ultime refuge des mammouths au moment du dernier réchauffement climatique dans lequel nous sommes, sont devenus nains. Et en Corse aussi, vous avez des cerfs nains et même l'empereur était petit. Non. Donc j'ai sorti ça à Ajaccio, je me suis fait... Vous pouvez le dire à Bastia, à Bonifacio, mais pas à Ajaccio. Donc, voilà. Donc, attendez, on y va là. Nous sommes sur l'Afrique et une partie du Proche-Orient. Néandertal, Europe et Asie occidentale. Denisova sur le centre de l'Asie. Il se passe autre chose en Chine, là, c'est un peu compliqué, donc c'est pas encore très clair. Java, donc au moins 4 espèces d'hommes. Or, c'est quoi une espèce, c'est surtout Hans Meyer et d'autres, l'espèce biologique, en fait, par définition, c'est l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, sur la Terre, il n'y a qu'une seule espèce d'homme, parce que tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été largement démontré par les marins, les militaires, les missionnaires, et aujourd'hui par le tourisme. Donc, une seule espèce. Ben oui, mais comme vous le savez, tous les noms africains dans cette salle, et je n'ai pas vu beaucoup d'Africains, ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Alors vous dites, eh, attendez, monsieur Pic, oh oh, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des espèces et des individus qui ne se reproduisent pas entre eux, mais on a l'ADN de Néandertal. Eh bien ouais. Vous allez voir que l'espèce, pour nous, c'est nominatif. C'est nominaliste, pardon. C'est une commodité de langage. L'espèce n'existe pas en tant que telle. C'est une façon de dire les choses. On y va. Néandertal et nous, nous avons un ancêtre commun qui s'appelle Homo heidelbergensis. Et depuis 500 000 ans, des populations d'Homo heidelbergensis ont dérivé. Au sud, nous deviendrons les Homo sapiens. Au nord de la Méditerranée, ils deviendront les hommes de Néandertal. Mais au gré des fluctuations climatiques, nous allons nous retrouver au Proche-Orient. Et là, ce sont des hommes et des femmes. Et là, c'est classique, on se tape dessus et on fait l'amour. Donc, au début de ce processus de spéciation, parce que c'est ça le problème, c'est qu'au début, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. On le constate qu'après. C'est qu'une fois qu'il ne peut plus se reproduire qu'on se dit « Ah, nous avons deux espèces ». Mais dans le processus de spéciation, personne ne peut dire quelle sera l'issue de ce qu'on est même à peine capable de mettre en évidence. Donc, quand des populations de Néandertal et de Cro-Magnon, qui ne s'appellent pas encore ainsi, enfin Cro-Magnon c'est vous et moi, c'est Homo sapiens, pardon, se retrouvent au Proche-Orient entre 400 000 ans et 100 000 ans, et ça c'est ce que nous donne la génétique actuelle, hein, eh bien, il y a encore compatibilité des matériaux génétiques. Et ce qui va se passer, c'est que les populations les plus au sud en Afrique, pour nous, et plus au nord pour Néandertal, elles vont diverger beaucoup plus. Ce qu'on appelle la dérive génétique. La dérive génétique, ça ne veut pas dire que ça donne n'importe quoi. Ça veut dire que ce sont des petites populations, donc peu d'individus, donc une faible inertie du génome, et donc ça peut fixer les mutations rapidement et ça évolue très vite. Alors, ce qui aurait pu se passer, c'est que se maintiennent plus les hybrides, s'il y avait pu y avoir des hybrides au Proche-Orient, et que les autres populations périphériques disparaissent, mais il s'est passé exactement l'inverse. Et personne n'aurait pu savoir à l'époque. Et donc, à partir de là, il va y avoir des transferts d'ADN entre les futurs Néandertal et les futurs Homo sapiens, mais ces populations ne vont pas connaître un immense succès. On a des modèles aujourd'hui avec les babouins. Et en fait, celles qui vont mieux perdurer, ce sont celles qui sont plus dérivées du côté Homo sapiens et plus du côté Néandertal. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus, même si on fait l'amour avec eux, se reproduire avec eux. Alors, comment ça se fait qu'on travaille un peu d'ADN Néandertal? Ben, comme les plus anciens Homo sapiens étaient au Proche-Orient il y a 120 000 ans et qu'eux, ils traînaient un petit peu d'ADN de Néandertal, eh bien, quand les Homo sapiens modernes, vous et moi, là, et tous ceux de la Terre d'aujourd'hui sont sortis, ben, ils étaient compatibles génétiquement avec les anciens Homo sapiens et ils ont embarqué donc l'ADN qu'eux avaient capté avec les anciens Néandertal. Vous suivez? Ça s'appelle la biologie. Vous voyez? Et ben, pareil pour Denisova. Les populations d'Homo sapiens qui sont passées ensuite depuis 50 000 ans vers l'Asie centrale ont embarqué de l'ADN de Denisova. Et les Papous de Nouvelle-Guinée, etc., ont de l'ADN de Denisova. Mais apparemment, Néandertal et Denisova ne sont pas rencontrés, mais attendez, ces études sont très récentes, donc. Hein, je rappelle que le même laboratoire qui a dit à Leipzig, au Max Planck Institute, qui a dit qu'il n'y avait pas d'hybridation entre Néandertal et nous, ce sont eux. Ah, ça c'est sur l'ADN mitochondrial. On met en évidence que sur l'ADN nucléaire, celui du noyau, hein, il y avait l'ADN. Donc ils ne sont pas trompés. Simplement, ils ont eu d'autres matériels. Donc c'est les sciences, ça avance. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez comme c'est compliqué les processus de spéciation. Comment apparaissent de nouvelles espèces? Eh bien, c'est très compliqué. Le modèle le plus facile à comprendre, c'est l'Isaac Story d'Yves Coppens. Entre Charles Darwin et Yves Coppens, personne n'a eu un modèle cohérent des origines de la lignée humaine par rapport à celle des chimpanzés. Et Yves Coppens fait une magnifique synthèse des disciplines impliquées dans notre grande discipline avec les sciences de la Terre et la biologie, la génétique et l'éthologie qui commencent à se manifester à cette époque-là. Coppens, en plus... Copain s'est dit qu'il n'est pas darwinien. D'ailleurs, pour m'embêter, il me dit Darwin. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas plus darwinien que Coppens, parce que quand vous avez un jeune étudiant qui vient de physique, sortant de mécanique quantique et tout le bazar, et qui vous dit « je veux faire de la paléontologie », il faut vraiment croire dans la diversité. Hein. Donc, Yves Coppens fait une synthèse. Vraiment, c'est une partie de l'épistémologie darwinienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la consilience. La consilience, c'est quoi? C'est quand différentes disciplines indépendantes convergent vers le même modèle. Donc, que nous disent les fossiles il y a 30 ans? Que les plus anciens fossiles connus, comme Lucie notamment, eh bien, sont à l'est des vallées du Rift, et on n'a aucun fossile de grand singe parmi les milliers de fossiles connus. On a des milliers de fossiles de vertébrés, mais aucun grand singe à l'époque. Les seuls que l'on ait, c'est les Australopithèques, et c'est sur notre lignée. Tous les grands singes actuels sont, quant à eux, à l'ouest des vallées du Rift. La géologie nous dit que ça se déforme, ces vallées du Rift, vers 6 millions d'années, et la génétique nous dit, on se sépare vers 6 millions d'années. Donc, la consilience, d'ailleurs, c'est parce que vous allez en parler, c'est ce qu'avait très bien vu, d'ailleurs, Jean-Paul II dans son discours, qu'on aime pas trop mal chez nous, devant l'Académie pontificale en octobre 1996. Et il dit ceci de mémoire, c'est mal cité, pardonnez-moi, il dit, il est tout de même remarquable de constater que cette théorie, parce qu'il ne dit pas le nom quand même, mais théorie d'évolution, donc, ait fait l'objet d'une convergence non recherchée de différentes disciplines des sciences de la Terre et de la vie, et qui, il dit, ça constitue en soi une preuve pour cette hypothèse. Enfin, quand même, il ne va pas tout lâcher. Hein. Bon, mais en tout cas, ça s'appelle la consilience. Hein, la consilience, et en fait, c'est important. Hein, quand on parle d'interdisciplinarité, vous savez, on a des controverses chez nous entre les généticiens et les paléontologues. Alors, les généticiens, comme André Langanet, immense bonhomme, c'est « Ouais, vous, les paléontologues, avec vos vieux machins. » Et attendez, tant qu'on n'est pas d'accord, il n'y a aucune raison qu'une discipline se soumette à l'autre. Mais quand l'autre discipline vous dit que ça ne va pas chez vous, ça vous oblige à réfléchir sur vos paradigmes. Hein. Un des exemples que vous connaissez fort bien avec nos amis physiciens, hein, la mécanique quantique et la théorie de la relativité, ce n'est pas très compatible. On bricole entre les deux, jusqu'au jour où on espérera avoir une théorie unitaire. Voilà, c'est comme ça les sciences. Il ne faut pas dire que les autres ont tort. Ça fonctionne, voilà, essayez de faire pareil. Donc, voilà un bel exemple. Et Coppens donc, dit, voilà, les ancêtres communs des chimpanzés et des hommes, eh bien, se sont trouvés séparés par les vallées des rifts, et après ont divergé, et ça donnait d'autres espèces. C'est ce qui s'est passé entre Néandertal et nous. Alors ça, on le comprend bien, parce qu'au bout d'un moment, il y a rupture de flux génétique. Et puis un autre modèle maintenant, qui a été surtout mis en place dans les années 1980, c'est la spéciation périphérique, ou péricentrique. Alors celle-là, c'est un vrai problème, et c'est associé aux théories des équilibres ponctués, c'est ce sont des instantanés pour nous. On ne le voit pas, les paléontologues. Ça veut dire quoi? Vous avez une population, une espèce, qui a des populations réparties sur des territoires. Une géographie, ça s'appelle sa biogéographie. Et donc, les populations qui sont à la périphérie sont évidemment à la limite de la databilité de l'espèce, sinon il y en aurait d'autres plus loin. C'est une tautologie. Et ces populations périphériques sont susceptibles de se retrouver isolées rapidement. Elles peuvent disparaître très vite, ou alors, évoluer extrêmement rapidement. Donc, on appelle ça l'effet fondateur, parce qu'elles n'embarquent qu'une partie du patrimoine génétique de l'espèce. Mais comme elles sont déjà au préalable dans des situations un peu particulières, il y a certainement des caractères adaptatifs qui sont là, qui vont se fixer plus vite parce que comme il y a moins d'individus, et ça sert à ça la sexualité, ça va fixer donc rapidement les mutations favorables, en tout cas, et ensuite elles peuvent se trouver avantagées et même prendre avantage sur l'espèce mère. C'est certainement ce qui s'est passé pour le genre homo. Parce qu'il y a 2 millions d'années en Afrique, on va d'un seul coup débouler des hommes de grande taille, qu'on appelle Homo ergaster, donc les premiers hommes. Mais on a très peu de fossiles intermédiaires. Alors depuis, on en a, parce qu'avec les paléontologues, il faut être un peu patient, et on s'aperçoit qu'effectivement, certainement, il y avait dans la variation des populations des premiers hommes au sens large, genre Homo, des populations qui étaient plus engagées certainement dans une vie dans les savanes ou des milieux plus ouverts, qui étaient plus longilignes, avec une physiologie liée à la course, et ceux-là se sont trouvés très vite avantagés. Donc, une bonne explication, c'est ça. Donc, ça s'appelle la spéciation périphérique ou péricentrique. Voilà comment peuvent apparaître de nouvelles espèces. Et puis, évidemment, elles vont cohabiter. Vous avez l'espèce mère, elle, souche, va continuer à évoluer, et l'autre va être en parallèle jusqu'à temps qu'elle les supplante, et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et ça, vous voyez, c'est des modèles que nous avons élaborés, donc, il y a très peu de temps. Puis, un autre modèle de spéciation, comment apparaître de nouvelles espèces, c'est très compliqué, ça s'appelle la spéciation sympatrique. C'est-à-dire, vous avez des espèces qui sont sur le même territoire, et c'est au sein de la population qu'ils vont se séparer. D'après Ernst Mayr, il n'y a aucun exemple cohérent de spéciation Saint-Patrick, donc au sein d'un même territoire, des individus d'une même espèce, parce que ça nécessite des niches écologiques différentes et des choix sur la sélection sexuelle. C'est tout à fait possible. Alors, le seul exemple que je connais, mais qui a avorté, c'est l'UMP. On a failli avoir une spéciation Saint-Patrick au sein de... Et puis néanmoins, voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est pas facile, même au sein de l'UMP, qui est une espèce quand même assez archaïque, mais même là, ça marche pas. Donc, voilà. Bon, j'ai préparé un article là-dessus, mais le monde l'a refusé. Donc là, je suis assez furax. Hein. Donc, ça voudrait dire que... Alors ça, par contre, chez les insectes, on le voit bien, quand il y a des différences avec la température, sur l'écologie, recherche de nourriture. Ça, chez les insectes, on a des exemples. Alors, les plantes, c'est un vrai bazar génétique. Donc ça, il y a plein d'exemples chez les plantes. Par contre, chez les oiseaux et les mammifères, qui sont les espèces les plus complexes, c'est pas très évident. Alors, c'est quoi la sélection sexuelle? C'est le moment d'en parler. La sélection sexuelle, faut arrêter les délires. Hein? C'est pas, je suis un grand mâle plus fort, je casse la figure aux autres mâles, et toutes les femelles, qu'est-ce qu'il est beau ce gars-là? Bon, il n'y a que les hommes qui y croient, là. Les femmes rigolent déjà. Hein? Donc, non, ça voudrait dire que dans une équipe de rugby, avec les piliers qui se reproduisent, vous pouvez demander aux dames à s'empérer les trois quarts et les arrières. Bien. Dans la sélection sexuelle, il y a quatre composantes, et ça a été élucidé il n'y a pas trop longtemps non plus, même si Darwin était très en avance. Il y a d'abord la compétition intrasexuelle. Comment des mâles empêchent les autres mâles de se reproduire? Alors ça se voit, hein, parce que les mâles, ça frappe, ça brame, ça gueule, ça sort les crocs, ça fait des roues arrière à moto, classement, tennis, c'est le même comportement de base. Hein, donc ça se voit bien. Donc, combien je gagne, etc. Oui, le truc. Les femelles aussi. Les femelles, entre elles, pour empêcher de se reproduire, c'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi redoutable. Sur le blocage des ovulations, etc., le stress, même dans notre espèce, hein, c'est très redoutable. Un exemple connu, c'est les licaons, qui sont les chiens sauvages d'Afrique. Là, c'est des couples dominants, mais les femelles sont dominantes. Chez nous, mon épouse est là, on a un couple de Doberman, donc le mâle est un peu plus âgé, bon, c'est super gars. Hein. Et là, une petite femelle, mais dans 6 mois, carpette le gars. c'est pas drôle chez les canidés. La condition masculine chez les canidés, messieurs, c'est très difficile. En tout cas, très clairement, si la sœur de la femelle dominante, la numéro 2, met une portée au monde, et s'il y a assez à manger, elle tolérera. Mais s'il n'y a pas assez à manger, elle tuera les petits de sa sœur. Ce qui compte, c'est la survie du groupe et de la meute. Donc là aussi, chez les femelles, ça peut être extrêmement violent. Comme des mâles peuvent tuer des petits aussi, donc il y a des infanticides pour ces raisons-là. Donc ça, les mâles entre eux, les femelles entre elles, c'est la sélection qu'on appelle intraspécifique, au sein du même sexe, hein, ou la compétition, pardon. Et ensuite, il y a la sélection, comment les femelles choisissent les mâles, et comment les mâles choisissent les femelles. Bon, la plupart du temps, c'est plutôt les femelles qui choisissent les mâles. Hein. Les gars nous laissent l'illusion que c'est nous qui sommes à la manœuvre, mais au bout du bout, c'est elles qui sélectionnent. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, typiquement, c'est les oiseaux comme les tétras ou les oiseaux de paradis. Ils vont commencer à se friter entre eux, les mâles, pour aller trouver les meilleurs endroits sur les branches ensoleillées pour montrer leur beau plumage et parage, etc. Donc ça, c'est entre mâles. Ensuite, une fois que c'est calmé, les femelles font leur tournée. Et dès qu'une femelle arrive, les autres, un peu pavloviens, comme ça. Hein. Enfin, il suffit de regarder les hommes au café en été, hein. C'est pareil. Ah, il y a des dames qui connaissent. Et donc là, les mâles font leur sélection. Hein. Et puis là-bas, ils ont compris, mesdames, les femelles chez les oiseaux de paradis ont compris une chose. Un mâle séducteur, on prend ses gènes, mais on ne s'encombre pas de lui à la maison. Ça complique la vie. Hein. Voilà. Bon, alors, vous mettez tout ça, compétition entre les mâles, entre les femelles, mâle, femelle, femelle, mâle, vous avez toutes les combinaisons possibles des espèces monogames, des harems. Alors, quand je dis harem, tous les gars s'y croient, un mâle et plusieurs femelles. Non, harem, c'est un membre d'un sexe avec plusieurs membres de l'autre sexe. Donc, vous avez des harems polygynes, ça c'est dans la tête de tous les hommes, un mâle et plusieurs femelles, et des harems polyandres, une femelle et plusieurs mâles. Et là, le sourire change de visage. Voilà. Donc voilà, tout ça, normalement, ça devrait participer des facteurs de spéciation Saint-Patrick, mais apparemment, chez les mammifères et les oiseaux, c'est difficile à observer. D'abord parce que les temps de reproduction sont longs, c'est très compliqué, mais c'est de là que viennent toutes les parades, toutes les stratégies, etc. Voilà, diversité. Bon, voilà. Donc, vous voyez déjà, apparition de nouvelles espèces, vous voyez comme l'affaire est quand même extrêmement compliquée. Et j'ai gardé le gros morceau pour la fin, la sélection naturelle. Alors là, vous allez voir, on n'a toujours pas compris. La sélection naturelle, mesdames et messieurs, oubliez, c'est pas la survie du plus apte, c'est pas la loi du plus fort, ça n'a jamais été ça. La sélection naturelle dit que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. C'est le succès reproducteur différentiel. Et qu'est-ce qui fait qu'un individu va laisser une plus grande descendance que d'autres? Alors là, vous pouvez y aller. Faites jouer l'orchestre. Il y a une grande diversité de facteurs. Vous avez bien sûr des facteurs de sélection naturelle. Vous avez un agent pathogène qui déboule. Les individus qui, par variation, possédaient d'emblée déjà le caractère qui permettait de résister, ceux-là seront avantagés et ils pourront se reproduire. Et à la génération suivante, il y aura une plus grande fréquence du caractère génétique qui a permis, d'un point de vue épidémiologique, de résister à cet agent pathogène. Il fallait le dire. Et là, attention, ce n'est pas la sélection du plus apte. Je reviens à l'exemple. Nous sommes soumis à ça, nous aussi. Quand est arrivée la grippe espagnole, peut-être que les individus qui possédaient par hasard, et ça c'est fondamental, le caractère résisté à un agent pathogène qui n'était pas connu, étaient peut-être désavantagés, parce que ces gènes sont aussi liés à d'autres gènes. Et là, dans la nouvelle situation, se sont trouvés avantagés. Donc, c'est contingent. Ce n'est pas absolu. C'est contingent. Le terme clé, c'est la contingence. Hein, voyez. Et à partir de cela, vous comprenez ce que Darwin a compris, qu'on a mis un siècle, et ce que j'essaie d'expliquer aux éleveurs et compagnie. La résilience d'une espèce, l'assurance-vie d'une espèce, c'est la biodiversité. En fait, ce qu'on a mis un siècle à comprendre, c'est que la sélection naturelle a sélectionné des facteurs qui font de la variation, c'est-à-dire la variabilité. C'est très bien démontré dans les années 70, d'ailleurs, par une grande dame sur les bactéries. La diversité, mesdames et messieurs, c'est la probabilité qu'il y ait parmi nous des individus qui possèdent déjà d'emblée, peut-être, de manière probabilistique, le caractère qui permettra de résister à un agent pathogène qui interviendra de façon aléatoire dans un environnement, enfin non attendu dans l'environnement. C'est ça qu'avait compris Darwin, c'est ça que la biologie moderne a mis en évidence. Et c'est ce qu'on appelle l'algorithme darwinien. Pardon pour ce terme, l'algorithme darwinien, c'est produire de la diversité sans se préoccuper de leur avantage possible. Et c'est ce que font vos gènes. Vos gènes mutent, se dupliquent, se délètent, se redupliquent, se mélangent quand on se reproduit, etc. Tout ça, c'est de la machine avec la sexualité à faire de la variation. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que nous avons été nourris à travers la providence, à travers l'adaptation, à travers l'idée l'adaptation du plus apte, que les caractères doivent apparaître pour répondre aux facteurs de l'environnement. Mais non, mais c'est foutu! Donc il faut comprendre que cette machine fonctionne en deux temps. Produire la variation sans se préoccuper de ce dont ça peut donner, et ensuite, sélection. Et bien ça, c'est pour ça que je suis un petit peu moins dans les médias depuis un an et demi, c'est que je travaille beaucoup maintenant avec les organismes de recherche, notamment les entreprises, les petites entreprises. Je leur explique ce qu'est l'innovation darwinienne. Nos grandes entreprises françaises, elles marchent très bien. Vous savez, il y a un classement qui a été donné par les Chinois, là. Parmi les 10 premières entreprises du monde, il y a 6 françaises. Parmi les 50 premières entreprises, 500 du monde, 47 sont françaises. Ce qui correspond à l'excellence de nos écoles d'ingénieurs et même de nos universités de technologie. Nous sommes super bons, mais alors super bons, pour faire de l'innovation lamarckienne, c'est-à-dire allonger le cou de la girafe. On est très bons dans les domaines de l'activité économique traditionnelle. Nos trains, nos avions. En ce moment, les voitures, ça va un peu moins bien, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Les Allemands, il y a 20 ans, ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, ils ont les gros biscottos, mais on les aura après. Ça tourne en Europe, ne vous inquiétez pas. Donc, tout le monde le sait très bien. Voilà. Ça, on est très bons. Mais alors, pourquoi on n'est pas foutu d'avoir Facebook, Google et compagnie, les amis ? Ou Intel, ou Gentech et compagnie. Parce que la France est un pays, comme l'Allemagne, comme l'Europe continentale, qui ne comprend pas Darwin, qui ne comprend pas qu'on produise des idées sans se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. Ça s'appelle la recherche fondamentale. Faire avancer les connaissances sans se dire à quoi ça va servir. Il va falloir qu'on repense ton système d'évaluation de nos chercheurs, hein, chers amis. Hein ? Et ça, c'est parfaitement darwinien. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une culture d'essai-erreur. Alors, je ne dis pas qu'ils sont bons surtout aux États-Unis, mais là-dessus, ils sont meilleurs. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est avoir des idées, on verra si ça marche. Ça s'appelle les joint ventures, le capital risque ou les business angels. Là-bas, ils prennent 10 projets, il y en a 2 qui marcheront, les autres, on se plante, ce n'est pas grave, on a trouvé les perles rares. Nous, on veut avoir la perle avant d'avoir commencé. Et c'est une question de philosophie. C'est bien une question de philosophie, mesdames et messieurs. Et quand Darwin était traduit en français par Clémence Royer, c'était traduit dans une vision finalisée. Quand il était traduit en allemand par Ernst Haeckel, immense biologiste, mais qui a un peu déconné sur la fin avec les nazis, Ernst Haeckel, à qui on doit le terme d'ailleurs, c'est lui qui invente le terme d'écologie, Ernst Haeckel, c'est un immense bonhomme, c'est lui qui invente ontogénèse et phylogénèse, c'est un immense bonhomme, sauf qu'après il est un peu déliré. Hein. Et là, Ernst Haeckel, pareil, il traduit Darwin, mais il en fait une vision finalisée. Vous voyez ? C'est le concept darwinien, variation, sélection, et le fait que l'évolution est contingente, donc elle n'est pas de but, eh bien ça, c'est toujours pas digéré dans la culture occidentale. Alors nos biologistes, parce qu'on a une école post-darwinienne en France, je peux vous dire, qui est une des meilleures du monde, ça on est vraiment très bon. Hein. Mais en dehors du champ de la biologie, la pensée darwinienne n'est pas du tout comprise. Allez expliquer à nos politiques, nos administratifs, il faut faire des idées sans que ce soit évaluable tout de suite. Et bien c'est comme ça que ça marche, l'innovation darwinienne. Vous voyez ? Et bien ça, on ne comprend pas. Voilà l'algorithme darwinien. Donc produire la diversité pour faire cela. Donc voilà. Alors là, on comprend bien. On comprend bien que les mutations génétiques, les recombinaisons génétiques, la sexualité, ça fasse de la variation. Mais attendez, je vous ai abandonné en pleine savane tout à l'heure avec l'histoire du mec qui se redresse. Ça vient d'où ce truc-là ? Eh bien, on a compris grâce à Stephen Jay Gould et son école, et puis bon, j'en fais partie. C'était dans les années 80, j'étais aux États-Unis. On a compris que même les contraintes étaient source d'innovation. Ça, c'est vachement novateur. Les contraintes sont source d'innovation. C'est ce qu'on appelle la biologie des écoinçons. C'est quoi un écoinçon ? Un écoinçon, vous allez dans une basilique et vous avez des arches. Et puis au-dessus, vous avez la corniche et d'autres arches. Et puis entre les arches, vous avez les écoinçons. Et cet écoinçon est utilisé par les peintres pour décorer ou pour des mosaïques. Et si vous êtes panglossien, alors là, le terme vient de Stephen Jay Gould et de Levantine en 1979, la pire insulte que pouvait faire un évolutionniste, ta théorie est panglossienne. Vous savez, c'est le docteur Pangloss dans Candide qui dit « on est dans le meilleur des mondes possibles ». Donc c'est un peu de la providence réajustée, avec l'idée qu'en fait, tout dans la nature a un usage. La nature ne peut pas gaspiller, tout est... Et bien huilé. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas ces variations apparemment inutiles. Et donc vous arrivez, vous faites une visite comme ça, « Oh, l'architecte a été quand même assez génial pour prévoir cet écoinçon sur lequel a pu s'exprimer Léonard de Vinci. » Je veux dire que l'architecte, il n'a pas pensé une seconde à ça. Il se trouve que l'écoinçon est apparu de manière passive, par contrainte de construction. Le problème de l'architecte, c'est de faire des arches et que ça tienne. Ça se remplit entre les deux, tant mieux. Et ça... Ce sont des caractères qui apparaissent par variation sans qu'ils aient été recherchés. Et bien donc, le langage, ça vient de là, mesdames et messieurs. Quand notre homoégaster devient plus grand dans la savane il y a 2 millions d'années, quand on est plus grand, tout est plus gros, pas en proportion, je vous l'accorde, mais tout est plus gros. Et puis, en fait, nos aires primaires et secondaires pour le toucher, la vision, le goût, etc., c'est les mêmes que chez les chimpanzés. Elles sont identiques chez nous, sauf que notre cerveau est 3 fois plus gros. Donc, vous avez des parties qui sont des écoinçons, qui sont les aires pariétales. Pouf, c'est là que va venir le langage. Ça vous laisse sans voix. Hein. C'est ce que François Jacob appelait les bricolages de l'évolution. Et notre marche debout, elle vient pas du fait, parce qu'il y en a qui se dit, et attendez les gars, on se redresse pour avoir l'air des hommes. C'est que simplement, depuis Darwin, il l'avait dit, une fois de plus, personne ne l'a lu, Darwin, c'est dingue. Les bipédies, mesdames et messieurs, ça vient pas du sol. Quand vous êtes au sol, vous êtes à quatre pattes ou debout, il n'y a pas le choix. Ça vient tout droit des arbres. Ça fait 13 millions d'années que nous sommes habitués, nos ancêtres grands singes, à nous suspendre. Nous sommes habitués à la verticalité. Et quand vous grimpez le long d'un tronc d'arbre, et c'est ce qu'avaient vu Cyrano Bergerac et les libertins à la grande époque, et c'est la même façon dont on marche. On appelle ça chez nous une exaptation. C'est-à-dire une adaptation apparue dans un domaine qui est déplacée dans un autre. La plume n'est pas apparue pour le vol. La plume est certainement liée à des variations sélection pour les thémorégulations et la sélection sexuelle chez les oiseaux, puis un jour, il y en a qui sont bien décollés. Il n'y a pas eu qu'une seule lignée à chaque fois, il y en a eu plusieurs, sauf certaines se sont maintenues. Puis il ne faut pas dire que c'est le vol à deux ailes qui est meilleur à quatre ailes, ça c'est a posteriori. Il y avait des oiseaux à quatre ailes. Ça se trouve, ceux à deux ailes ont été sélectionnés parce qu'ils avaient une meilleure digestion. Donc du coup, ça nous met tout par terre. Je suis en train de vous dire que les choses apparaissent par bricolage, sans but, et qu'en fait, une adaptation qui semble merveilleuse était apparue de manière complètement clandestine, si je puis dire, parce que associée à une autre. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui dans les théories de l'évolution. Alors ça, on peut le reconstituer en s'inscrivant dans un cadre phylogénétique, en regardant les parentés entre les espèces, les variations. Vous voyez, tout cela donc intervient de cette manière-là. Donc il faut terminer. Voyez bien que ces théories de l'évolution modernes ne sont assez déconcertantes. En France, on a perdu beaucoup de temps, et pourtant nous étions les leaders à l'époque de Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire, mais ensuite la biologie française, excellente, est une biologie fonctionnaliste, c'est-à-dire sur la physiologie, sur la génétique, on est très bon, mais sur les théories d'évolution, on était très très en retard, et c'est revenu grâce au triple prix Nobel, Wolff, Jacob, Monod. François Jacob et Jacques Monod ont été vraiment des pionniers qui ont refait partir une école néo-darwinienne française et post-darwinienne aujourd'hui, et derrière cela, en effet, Jacques Monod, lorsqu'il écrit « Le Zard, la nécessité », c'est une expression qui vient de Démocrite. Là, il nous embête. Parce qu'il n'y a ni hasard pur, au sens le plus aléatoire, ni nécessité dans l'histoire de la vie. Alors, Monod ne dit pas qu'il y a la nécessité. Mais en fait, et Saint-Michel Serres l'a bien compris, il reprend beaucoup nos travaux dans ses écrits, c'est une théorie de la contingence. C'est-à-dire que là, Richard Dawkins, l'auteur du gène égoïste, a très bien compris ça aussi. Il faut bien comprendre que cette théorie des mécanismes s'inscrit dans une histoire. Et le jeu des possibles, ça veut dire qu'à chaque nouvelle population d'une espèce ou d'une lignée, vous avez un redéploiement de la variation, si ça va bien, mais qui est contrainte par le jeu des possibles. Une fois que vous êtes chez les bilatériens, vous n'en sortez plus. Une fois que vous êtes chez les singes, vous n'en sortez plus. Donc, la variation, les mutations aléatoires des gènes, les recombinaisons, en fait, sont contraintes aussi par une histoire. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de combiner une fois de plus. Et là, aujourd'hui, ça, c'est un livre qu'il faut que je fasse sur Odile Jacob. Par exemple, vous le savez, pendant longtemps, on nous a opposé l'histoire de l'œil. Donc, il est absolument impossible que notre vision, qui est quand même hyper complexe, ait pu apparaître par simplement variation-sélection. Eh bien, on a tout, parce qu'ils ont tellement embêté avec cette histoire de l'œil qu'on a tout. On a tout, depuis les gènes jusqu'au comportement. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent tout ça, mais moi, comme j'aime bien les singes, ce truc-là, j'ai bien vu. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de travaux récemment qui ont été faits. Rendez-vous compte. Nous, et je vous fais le résumé de tout ce qui s'est passé sur cet exemple de la vision. Nous, les singes, parce que l'homme ne descend pas des singes, je vous rassure. Nous sommes des singes, au sens des naturalistes, évidemment, évolutionnistes. Nos ancêtres mammifères ont perdu la vision colorée. Parce qu'on a vécu la nuit, sinon le jour, on se faisait bouffer par les dinosaures. Ce qu'on voit très bien dans Jurassic Park. Et dans l'histoire des singes, je vais très vite, il y a un groupe de singes qui est parti en radeau, ils n'ont pas fait exprès là non plus, paf, ils se retrouvent en Amérique du Sud. Et en fait, les gènes qui codent pour la vision sont sur le gène, le chromosome X et le chromosome numéro 7, si je ne me trompe. X, en tout cas, je suis sûr, et je crois que c'est le numéro 7. Donc, comme tous les mammifères, on voit donc sur, normalement, deux couleurs. D'ailleurs, ce qui m'amuse à des trucs que j'adore, vous savez, quand vous allez faire un safari au Kenya, on vous dit, vous habillez pas en rouge, ça fait couleur beefsteak. Ce qui pourrait attirer les prédateurs. Les prédateurs ne voient pas les couleurs. Bref. Et nous sommes les seuls mammifères qui voyons en trois couleurs fondamentales, comme vous savez. Ça a été quoi, cette affaire-là? Ça a été un paquet de gènes de chromosomes qui s'est dupliqué avec une mutation. Donc un décalage dans la captation des fréquences. Et c'est comme ça que la vision colorée. Mais comme c'est le chromosome X, ça a commencé chez les dames. Enfin, chez les femelles. Donc, chez des singes d'Amérique du Sud, les femelles vont en couleur et pas les mecs. Donc, ils ne doivent pas rigoler tous les jours, je peux vous dire. Et chez nous, les singes de l'ancien monde, donc Afrique, Europe, Asie, donc nous voyons les mâles et les femelles en couleur. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que les singes, enfin, pas nous les grands singes, mais les petits singes d'Afrique, etc., sont très colorés. C'est comme chez les oiseaux. À partir du moment où vous avez la vision colorée, les facteurs de sélection sexuelle vont jouer pour le choix des partenaires en fonction des couleurs et de leur parure. Donc, vous voyez, c'est un accident génétique, ça a été dupliqué, une mutation, deuxième accident. Ça n'aurait pu jamais être fait, c'est sélectionné. Chez les uns, ce n'est pas abouti. Et là, aujourd'hui, nous voyons en couleur. Et ça explique pourquoi, effectivement, pour le daltonisme, comme les femmes ont deux chromosomes X, il y en a un qui a le gène du daltonisme, l'autre va compenser sur l'autre chromosome, et que c'est plus chez les garçons que le daltonisme se manifeste. Ça existe chez les femmes, mais c'est beaucoup plus rare grâce à ce double chromosome. Donc, en fait, la théorie de l'évolution, c'est une théorie des mécanismes, et ça, c'est extrêmement troublant pour les physiciens. Parce que vous êtes sur des lois. Quand je pense machin, je lâche, c'est une loi de gravitation universelle, qui s'observe partout dès que des masses sont en présence. Quand ça descend, c'est la gravitation universelle. Quand ça remonte, c'est une autre force, c'est les muscles. C'est pour ça que la psychanalyse, pardon, cher ami, c'est pas une science, parce que quand ça descend, c'est Oedipe. Quand ça remonte, c'est toujours Oedipe. Donc, je peux pas m'en empêcher. Donc, non, mais voilà. Donc, voilà. Si ça remonte, il faut trouver une autre explication. OK ? C'est ma force musculaire. Et là, c'est troublant, parce que les mécanismes de sélection naturelle nous disent que c'est couple variation-sélection. Et le problème, c'est que les masses et qu'elles sont présentes, ça agit tout le temps. On appelle ça des forces, des lois nomologiques, c'est-à-dire des lois qui contiennent leurs causes et leurs effets. Quand l'électricité, pareil, les lois contiennent leurs causes et les effets. Et là, toute l'expérimentation en physique et même en chimie est basée sur ces lois, que vous retrouvez partout dans le temps et dans l'espace. Mais pas nous. C'est contraint par l'histoire. Et en fait, c'est pour ça que c'est des mécanismes, parce que la sélection naturelle n'est pas quelque chose qui agit constamment. Si l'environnement est abondant, il n'y a pas d'agent pathogène, il n'y a pas de sélection. Et puis quand on se reproduit, et c'est là qu'il va falloir repenser à M. Malthus, qui a été d'ailleurs vilipendé à gauche comme à droite par Marx d'un côté et Spencer de l'autre. Malthus, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas qu'il faut éliminer les pauvres, c'est pas ça l'histoire. Il dit que les populations se reproduisant, au bout d'un moment, les ressources sont limitées. Et bien, c'est exactement ce que connaît notre société aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'Occident a connu un développement, notamment avec ma génération, les baby-boomers, comme jamais comme précédent, parce que ce n'était pas un milieu sélectif. Tous les pays qui sont lancés dans le développement après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de limitation sur l'énergie. Donc les Soviétiques ont été très bons, les Américains ont été très bons, même les Soviétiques étaient devant eux, les Français ont été même meilleurs que les Allemands. Eh, c'est pas sélectif, tout le monde est bon. Tout le monde peut dire, on est les meilleurs. Il n'y a pas de sélection. Par contre, quand arrive le choc pétrolier, là, ça a commencé à sélectionner. Okay ? Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une loi, ce sont des mécanismes. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que chez nous, les mécanismes sont universels. Dès que vous avez variation, augmentation de la population, et au bout d'un moment, la limitation des ressources, la sélection naturelle intervient. Dès que vous avez ces trois facteurs. Mais ces facteurs sont universels. Ils se remanifestent à chaque fois où vous avez variation, développement des populations et limitation des ressources, mais ils ne vont pas donner les mêmes résultats. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens que nous ne sommes pas sur des lois. Il n'y a pas de loi de l'évolution. Et là, je peux vous dire, votre principe anthropique peut toujours courir. Merci.
Bravo, bravo et merci. Pas de loi. Très bien.
Merci à vous.
Il y a également des physiciens qui s'interrogent sur la réalité des lois. Mais moins que dans ce cadre-là.
Même au sein de la physique. Par exemple, quand Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé », c'est tout le problème de la physique probabilistique avec Boltzmann et compagnie. Bien sûr, même au sein de la physique, ce n'est pas si simple.
Alors, dans votre livre « Lucie et l'obscurantisme », c'est ça, il y avait un chapitre qui m'avait particulièrement interpellé, c'est précisément celui-là. Vous dites, après tout, si on revient 100 millions d'années en arrière, qu'on prend les mêmes conditions, on n'arrive pas forcément à l'homme, quoi, finalement.
Même dans les domaines de la physique, vous connaissez ça, c'est la théorie des chaos. Ça veut pas dire. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on a une incertitude. On ne maîtrise pas tous les paramètres. C'est pas le principe d'incertitude, évidemment, mais au bout d'un moment, on a une non-maîtrise de la complexité. C'est des théories de la complexité. Effectivement, un petit iota après, on a des conséquences radicalement différentes.
Alors, on n'a que quelques questions. Je vais en prendre deux ou trois parce qu'il est déjà tard.
Oui. J'ai plutôt une remarque qu'une question et qui est plutôt d'ordre psychologique, mais tout à fait d'actualité. Vous avez évoqué au début de votre exposé le film de Disney sur les chimpanzés, que je n'ai pas encore vu, mais que j'irai voir. Même s'il y a des petites critiques, paraît-il, c'est un peu Disney, mais c'est très bien, tout ça. Bref.
J'y reviens, allez-y, je vous en prie.
Alors, je connais une dame qui a 10 ans de plus que moi, qui habite la région lyonnaise, qui était directrice de collège, donc voilà, et qui aime beaucoup le cinéma. Alors, je lui téléphone, je lui conseille d'aller voir ce film, et puis je résume. Ah non, les singes, ah non, je ne peux pas voir ça. Bon, je résume.
Elle est directrice de collège.
Pardon ? Oui, alors, je lui dis, mais si vous n'aimez pas les singes, il y a un autre film où il y a des abeilles. Oh, c'est pareil qu'elle me fait. Ça ne me tente pas. Ah ouais. Alors, quelle est votre réaction à cette réaction de pas mal d'êtres humains aujourd'hui?
Alors, ça, en fait, merci, c'est très marqué culturellement. Si vous n'avez pas lu ce livre, il n'est pas facile, mais c'est vraiment déjà un des grands livres de ce siècle. C'est de Philippe Descola du Collège de France qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Or, en fait, nous, dans le monde occidental, celui qui est né dans le bassin méditerranéen et qui s'est diffusé après, bien sûr, nous sommes dualistes. C'est-à-dire que nous acceptons que notre matérialité soit partagée avec les autres êtres vivants. Ça ne pose pas de problème. Mais pas notre âme, pas notre raison, pas nos capacités mentales supérieures. Donc, à partir de là, dès que vous avez un film comme celui-ci, vous allez avoir des anathèmes qui viennent des théologiens ou d'une partie de la philosophie, même des sciences humaines, surtout en France, hein, qui disent « c'est l'anthropomorphisme ». Et je dis « mon coco, moi quand je vois des chimpanzés qui utilisent des outils, je vois l'homme qui utilise des outils, nous sommes des espèces sœurs, le principe de parcimonie dit que ça vient d'ancêtres communs ». Or ça, d'ailleurs, c'est très bien expliqué. Alors ça, si vous voulez une explication plus en avant là-dessus, c'est dans mon livre « L'homme est-il un grand singe politique ?» où là, je fais une analyse critique du livre de Pierre Boulle qui s'appelle donc « La planète des singes ». La nouvelle est géniale. Ça ne se passe pas, comme de l'excellent film d'ailleurs de 1968, dans la préhistoire. Ça se passe dans la période actuelle. Et justement, et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans notre domaine, par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure, si on repartait à zéro, il n'est pas sûr que ce ne seraient pas les chimpanzés qui feraient une conférence ici sur l'homme qui est au jardin des plantes. Hein? Donc, là, mais on ne refait pas l'histoire, hein, soyons très clairs. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le canon ou le principe de Morgan. Leon Morgan était un psychologue, parce que vous parlez de psychologie, de l'époque de Charles Darwin. Et à l'époque de Charles Darwin, il y a un monsieur qui s'appelle John Romanes. John Romanes dira cette belle phrase: il n'est pas surprenant de savoir d'où viennent les hautes capacités mentales de l'homme quand on sait qu'il part d'aussi haut, la psychologie du singe, j'ai dit du singe à l'époque. Sauf qu'à l'époque, on ne connaissait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà l'idée était là. Et simplement, comme on n'avait pas d'observation sur le comportement des singes et des grands singes, c'est un petit peu tombé à l'eau. Alors, on l'a accusé de faire l'anthropomorphisme, ce John Romanes. Et là, Leon Morgan dira, lorsqu'on fait une interprétation d'une expérimentation, d'une observation chez les singes, notamment, eh bien, il faut toujours prendre l'explication de plus bas niveau biologique. Et quand c'est l'homme, ça part d'au-dessus. Et c'est un postulat idéologique, au vrai sens du terme. Je ne sais pas pourquoi les singes étant si proches de nous qu'on irait chercher notre hypothèse. C'est le principe d'actualisme, hein, qui est fondamental en science. Pourquoi chercher notre explication lorsqu'on a une qui est plus simple? Eh bien, ça, on n'y arrive pas. Et ça, c'est l'héritage, cher monsieur, de nos ontologies fondamentales. L'ontologie, c'est la façon dont on se pense par rapport au monde. Et si vous allez chez les Japonais, c'est l'inverse. Chez les Japonais, ils sont animistes et shintoïstes. Et eux, par contre, tout le monde, tous les êtres vivants, c'est le même esprit. Par contre, qui diffère par la forme. Alors, pour les Japonais, que des macaques et des coutures, aucun problème. Il faudra peut-être apporter la preuve de l'inverse. Et nous, ici, il faut apporter... Donc, en fait, ce dont je suis en train de m'apercevoir, cher monsieur, c'est que nos grandes politiques scientifiques sont encore dictées par nos ontologies fondamentales. Il faut le savoir. Voilà. Et donc, le film, allez le voir, il est remarquable. Il y a toujours le problème du commentaire, ça, je vous l'accorde.
Oui, très anthropomorphique. Hein,
mais moi, il m'est arrivé la même chose quand j'ai fait un film sur un coup d'État politique chez les chimpanzés. C'était au zoo d'Arnhem. Ça avait été vu par Franz Zeval, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et donc, je voulais faire un film, faire un montage. Mais il est arrivé la même chose aux gens de Walt Disney, enfin de Disney Productions, pardon. Et là, j'arrive et les chimpanzés me font un coup d'État. Pouf ! Il n'y avait pas le script, hein, je peux vous dire. Et donc là, les gens m'ont dit, Pascal, tu délires, tu es en plein anthropomorphisme. Sauf qu'on a les données, parce qu'on les observe tout le temps. Et ça, vous voyez, d'emblée, c'est passionnant, parce que les gens qui véhiculent encore cette idée de l'homme et de l'animal nous imposent à nous, les scientifiques, d'apporter la preuve que leur conception du monde est fausse, alors que chez eux, elle n'est aucunement fondée sur une approche objectiviste. Voilà, nous sommes comme cela. Donc, il y a des problèmes anthropomorphiques. Le commentaire est toujours difficile dans ce genre de film, mais sans commentaire, vous ne pigez plus rien. Moi, je l'ai fait une fois, c'est quoi tes chimpanzés? Un chimpanzé, ça ressemble à un chimpanzé si vous ne faites pas attention. Donc, on est obligé de tomber dans ce travers. Mais allez voir ce film, vous allez voir, c'est absolument génial. Et là, vous avez un coup, vous avez la vraie guerre chez les chimpanzés, les outils, c'est vraiment fascinant. Et tout ça, c'est connu, c'est publié, sauf que ça n'avait jamais été filmé.
Voilà, une dernière question, s'il vous plaît.
Alors, c'est là. Plus court, je réponds plus, de manière plus brève, pardonnez-moi.
Oui, bonsoir, merci pour cet exposé grandiose. Moi, j'avais une question concernant le fœtus. On lit de temps en temps que l'évolution biologique peut se voir à travers l'évolution du fœtus, où on passe le reptilien, l'amphibien. Et je voulais savoir simplement ce que vous en pensiez. Merci.
Ça, c'est ontogenèse et phylogénèse. Merci pour cette question. Donc, ce qui est reproduit, ce n'est pas l'histoire de la vie qui est reproduite. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est l'homonculus. D'ailleurs, Darwin ne voulait pas du terme évolution. Évolution, ça vient d'évolvere, comme si vous dépliez le film, comme si l'homme... Attendez, l'homme est un microcosme qui résume le macrocosme. Hein, il s'appelait Robert Grosset, celui-là, on ne l'a pas oublié au Moyen-Âge. Hein. Donc, il était anglais, qui plus est. Donc, ça, c'est cette idée alors, qu'on retrouve beaucoup, d'ailleurs, dans des conceptions qui ont réémergé en France récemment, parce que Ernst Haeckel, que j'ai cité tout à l'heure, qui va dire que l'ontogenèse récapitule la phylogénèse, il dira qu'il y a une vraie finalité qui est l'homme, et que toutes les autres branches, en fait, c'est des chaos, c'est des erreurs. C'était repris en France par Madame d'Ambricourt-Malassé, etc., qui a eu beaucoup de succès, parce que notre pensée est très structurée comme cela. Hein. Et donc, non, ce qui est reproduit, monsieur, ce sont les étapes structurelles de l'histoire de la vie. On ne repasse pas par ça de poisson, mais il y a un moment, on a la structure poisson, tout en sachant que les poissons d'aujourd'hui sont hyper évolués par rapport aux poissons ancestraux d'où on vient. OK ? Là aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, on récapitule les structures de l'évolution. Mais après, ça diverge tout en haut. Donc, pas l'histoire, mais l'histoire des structures. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Par contre, il y a un gros truc qui traîne, c'est la néoténie. Alors là, la néoténie, c'est l'idée que l'humain que nous sommes est un grand singe qui n'est pas arrivé à l'état adulte. C'est-à-dire que nous serions de grands enfants à l'état adulte. Alors ça, la néoténie, les philosophes adorent. Non, ce n'est pas aussi simple. La néoténie, c'est je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez comprendre, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer là. Mais c'est les modifications de l'ontogenèse. Alors ça, c'est important parce que, vous savez, vous pouvez vous augmenter ou vous réduisez certains temps de la période de l'ontogenèse, de la embryogenèse, phétogenèse et même de l'enfance. On passe d'un chimpanzé à un gorille, par exemple, en termes de structure. Ça c'est des découvertes qu'on appelle les hétérochronies, c'est-à-dire de jouer sur l'étang du développement et de la croissance. Hein. Par exemple, ça s'appelle les hétérochronies. Alors, on n'est pas... Alors ça, vous entendrez ça beaucoup en sciences humaines, parce qu'ils ne connaissent pas les singes. Ils disent, l'homme est le bébé le plus immature. Je t'en fous, vous avez déjà vu un souriceau ou un petit chaton? C'est des vrais fœtus. Le petit humain naît très mature, en fait. Il est très mature. Sauf que comme il a un gros cerveau, ce gros machin-là, il consomme 95% de son énergie, il en peut... Le gamin, il dort, quoi. Mais bon, c'est tout. Hein. Mais le petit humain, il naît très mature par rapport aux autres espèces. Hein. Même avec les chimpanzés, à peu près pareil, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, ces histoires. Alors, la théorie moderne de l'évolution actuelle, son terme, c'est la théorie Evo-Devo, qui intègre tous les mécanismes que j'ai évoqués de l'évolution, plus, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, et merci pour votre question, tout ce qui est lié au développement. Donc, Evo-Devo.
Eh bien, merci. Je crois que ce sera le dernier mot, merci. Encore une fois. Bravo.